Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi?
Bah, si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu. Tu sais pourquoi? Pour niquer les gonzesses.
Salut, c'est Le Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club, notre petit salon de discussion mensuelle autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du ciné que nous aimons tant ici, une petite heure ou presque, on va causer, débattre, rigoler un peu aussi et répondre à toutes les questions que vous vous posez et même à celles que vous ne vous étiez jamais posées. Oui, c'est possible, évidemment. Je ne suis pas seul pour assurer tout ce programme. Ils sont trois à m'avoir rejoint autour de la table à l'antenne Paris. Yannick Dahan, bonjour Yannick.
Bonjour.
Stéphane Moïsaki, salut Stéphane.
Salut Thomas.
Et Perrine Kenson, salut Perrine.
Salut Thomas.
Les films réalisés en sous-main, les jeux vidéo adaptés au cinéma et les épouvantables Razzie Awards. C'est le programme de ce No Ciné Club 6ème du nom et c'est parti.
Bon, ça va, on vous fait pas chier là. Non, c'est sûr, je rêve.
Et avant toute chose, on vous le rappelle, si vous nous suivez en direct sur Facebook et YouTube, vous pouvez interagir avec nous dans les commentaires, interpellez-nous, posez-nous des questions, on tâchera de répondre au meilleur, c'est promis. Allez, premier sujet du jour. Qui a vraiment réalisé la nouvelle adaptation de Judge Dredd en 2012? Officiellement, c'est Pete Travis, c'est en tout cas ce qui est inscrit au générique du film, mais comme on s'en doutait un peu, vu les échos de la production assez chaotique qui nous était revenue à l'époque, il semblerait qu'en réalité, le véritable architecte du film soit bel et bien Alex Garland, le réalisateur d'Annihilation, en ce moment sur Netflix, dont on va reparler dans un épisode de nos ciné tout bientôt. Garland, scénariste de Dredd, avait repris le montage en main, mais si on en croit une toute récente interview de Karl Urban, qui tient le rôle-titre dans le film, Garland aurait surtout tourné lui-même une bonne partie des séquences. Et c'est pas du tout un cas isolé dans l'histoire du cinéma, n'est-ce pas, Stéphane?
Non, c'est pas du tout.
Tu apprécies ce lancement?
C'est même
extrêmement naturel.
C'est même assez fréquent. Le truc, par contre, c'est que c'est beaucoup moins fréquent que ça ressorte, en fait. C'est même assez étonnant.
Ça ne se dit pas.
C'est une prod anglaise à la base, Dredd, donc peut-être que c'est la raison pour laquelle ça a pu ressortir. Mais en général, oui,
parce que les Anglais balancent tout, quoi. C'est ça, quoi.
Non, c'est parce qu'en fait, si tu veux, ils sont pas régis sous les mêmes syndicats et les mêmes lois. Ouais. Donc, je pense qu'un mec comme Karl Urban, il s'en fout un petit peu de balancer dévoiler le poteau rose, quoi. Non, c'est un cas. Alors bon, on peut débattre sur la qualité de Dredd en question.
Je refuse qu'on en débatte.
Moi, je pense que. Mais j'aimerais bien lancer Yannick là-dessus parce que je crois qu'il a un grand avis.
Je refuse qu'on débatte de la qualité de Dredd.
C'est vachement bien.
C'est vachement bien.
C'est un film, ça se voit qu'il y a des problèmes quand tu regardes le film de toute façon.
Pas du tout.
Et contrairement à d'autres films que je vais citer, qui ont effectivement été ghost réalisés, comme on dit, quoi, et qui sont un peu dans des légendes urbaines. En fait, et pour des raisons très spécifiques. Il y a des films comme, par exemple, on le sait parce qu'il y a deux versions qui sont sorties, mais on ne sait pas exactement qui a réalisé la vraie version, enfin la version qui est sortie en salle. Un film comme Payback, par exemple, avec Mel Gibson, où c'est signé Brian Helgeland, mais tu as toute une partie, en fait, le troisième acte complet qui n'est pas du tout signé par Helgeland lui-même et qui est attribué officiellement au coiffeur de Mel Gibson, ce qui est quand même un truc assez génial parce que
mais pourquoi et,
alors si t'achètes le moi c'est un film que j'aime beaucoup
oui,
je crois que j'en ai parlé plusieurs fois dans le ciné. Si t'achètes le Blu-ray en fait qui était sorti aux États-Unis qui s'appelait Straight Up Director's Cut, t'as la version remaniée en fait en 2006 de Brian Helgeland avec sa vraie fin, un autre score musical qui est beaucoup moins bon je trouve que celui de Chris Borman et tout un tas de scènes qui étaient dans la version originale, dans la version sale, pardon, en fait, qui sont plus du tout dans le film. Et t'as, en fait, les bonus du film où chacun explique plus ou moins sa version des faits, quoi. Et à la fois Helgeland, et à la fois, Mel Gibson, en fait, qui est le producteur et qui a servi la Paramount à l'époque, a accepté, en fait, les demandes de la Paramount qui étaient de re-shooter le film après des projections tests assez catastrophiques, quoi. Et donc Mel Gibson, en plus il a son look absolument dantesque là où il a sa barbe hyper bien taillée et son air de fou là comme ça qui t'explique en gros que le film a été réalisé par Mon et là il y a un blanc coiffeur et il reprend quoi. Et là tu te dis c'est pas possible, c'est il y a un problème en fait, c'est qui le coiffeur Mel Gibson
c'est
voilà.
Clair.
Et en l'occurrence, alors moi j'ai fait j'ai fait le hasard veut que j'ai fait une interview cette semaine.
Du coiffeur de Mel Gibson.
Non, de Chris Boardman en fait, qui est le compositeur du film. Le compositeur de la première version.
La version
originale. J'ai oublié malheureusement le compositeur de la deuxième version qui est vraiment pas terrible pour le coup, de la version straight up.
C'est John Williams.
Et quand j'en ai parlé, et je lui ai parlé du coup du score en fait, et du fait que le score n'était pas
n'était pas le même.
Et en fait, il m'a dit que la personne avec laquelle il a travaillé, lui en tout cas, quand il a dû refaire des parties du score en fait de la version qui est sortie en salle, c'était Mel Gibson. Donc t'as vraiment alors est-ce que c'est Mel Gibson qui a réalisé le film, cette version, la nouvelle version, c'est difficile à dire. Le truc en tout cas, c'est que la raison pour laquelle en fait tout le monde est un petit peu joue un petit peu marche sur des œufs quand il s'agit de déclarer la vérité alors que le film a 20 ans, il a fait son temps quoi. C'est parce qu'en fait, il y a des règles très spécifiques en fait, avec les syndicats aux États-Unis, que ce soit la Writers Guild, la Producers Guild, la Directors Guild. Et c'est ce qui fait qu'en fait, dans certains cas, non seulement en fait, il y a des cas très spécifiques où, par exemple, les réalisateurs qui ne veulent littéralement pas signer, qui ne se reconnaissent pas, à une époque pouvaient signer Alan Smithy, mais bon, c'est devenu tellement connu que c'est un peu gros maintenant.
Ouais.
Plus personne ne l'utilise, du coup. Voilà. Il y a des versions télé qui ont été diffusées, notamment, c'est connu, la version de Dune, je crois qu'elle est signée Alan Smithy,
la version télé
de Dune. Et en même temps, en fait, il y a, il y a une règle en fait, qui est très spécifique où, en cas de problème sur un tournage, et quand le réalisateur se fait destituer, il est impossible pour le producteur ou la star de récupérer les rênes du projet et de devenir réalisateur à la place du réalisateur. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des cas très spécifiques où... Payback, c'est un bon film, mais c'est finalement, ils s'en sont plutôt bien sortis. Quoi. Mais t'as des films comme, par exemple, le Fair Game. Alors ça, personne ne se rappelle forcément de ce film. Tu te rappelles de Fair Game,
avec William Baldwin.
Voilà, avec, non, ouais, non, c'est ça, ouais, avec William Baldwin et Cindy Crawford.
Et Cindy Crawford.
Voilà.
Pardon, j'étais pas sur le même. Pardon.
J'étais sur un autre, le seul et l'unique.
Ouais.
qui est
James Baldwin, elle, c'était.
J'étais sur Sean Penn.
Voilà.
Mais toujours les films classe, Périne. Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que dans ce film-là, en fait, c'est un réalisateur qui s'appelle Andrew Sipes, qui n'a plus rien fait depuis. Sa carrière, elle a été ruinée par la sortie de ce film, qui a été un bide aussi. Et quand tu regardes les images de tournage, en fait, le mec est jamais sur les images qu'on pouvait voir à l'époque, les hippiqués, il était jamais sur le plateau et t'avais Joel Silver qui était en train de diriger tout le monde, d'expliquer à Cindy Crawford où se foutre, comment faire, etc. Donc c'est un autre cas d'école. Évidemment, le plus gros cas d'école, je trouve, en fait, qui est connu, c'est celui de Poltergeist.
Oui, de Tobe Hooper.
Où il y a quand même une histoire assez, en gros, ça fait 35 ans qu'on se pose la question, si tu veux, de qui a réalisé quoi, et que ce soit dans le cas de Steven Spielberg ou le cas de Tobe Hooper, les deux, on y est, mais dès le début. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de rumeurs qui datent avant même la sortie du film. Quoi.
De photos tirées du tournage qui étaient parues dans la presse à l'époque.
Que Spielberg a fait carrément une page, je crois, dans Variety pour réitérer sa confiance à Tobe Hooper et lui dire c'est malheureux que les gens ne voient pas que c'est toi qui as réalisé ce grand film, etc. Parce que lui, il était producteur sur le film. Quoi. Oui. Bon, le truc, c'est que la rumeur, elle vient de beaucoup de choses. Déjà, il y a plusieurs acteurs qui ont dit qu'ils ont été dirigés par Spielberg. Ça, c'est le premier truc.
Oui.
T'as Spielberg qui dit oui, mais les photos que vous avez vues, c'est Tobe Hooper qui m'a dit, tu veux réaliser ce plan, bah vas-y, tu vois. Donc voilà, enfin c'est plein de trucs comme ça. Toutes les rumeurs, elles sont déboîtées à chaque fois, mais en fait, elles reviennent en puissance, quoi. Et la plus grosse. Enfin, il y a une raison, en fait, qui est liée à ça, c'est qu'en fait, à l'époque, Tobe Hooper... Encore une fois, tout ça, c'est des trucs à prendre avec les pincettes, mais bon, quand tu regardes le film, c'est un film qui ressemble à un film de Spielberg, il ne ressemble pas vraiment à un film de Tobe Hooper, quoi. Et je veux dire, le film d'après de Tobe Hooper, c'est Life Force, et je veux dire, ça ne ressemble pas du tout à Poltergeist, quoi. Et donc, quand tu regardes le film, ça se voit, en fait, que c'est un film de Spielberg. Mais la plus grosse rumeur, la plus grosse raison pour laquelle, en fait, Spielberg a pris les rênes du projet, alors que c'est quelqu'un qui, en tant que producteur, est connu, en tout cas dans les années 80, vraiment pour protéger ses réalisateurs, et je pense que c'est un cas où il l'a fait aussi à ce moment-là, c'est que, en gros, Tobe Hooper était en pleine crise cocaïnomane. C'était sa période vraiment noire. Et du coup, en fait, il n'était plus du tout apte à réaliser le film, quoi. Et donc, voilà. Mais, encore une fois, les règles viennent là-dedans parce qu'il y a une problématique de Directors Guild et de règles que tu ne peux pas déroger. Sinon, tu te fais virer de par exemple, Rodriguez choses sur Sin City. Je te laisse la parole dans deux secondes.
Oui, parce que c'était pour continuer sur Poltergeist.
Mais justement, Rodriguez, tu vois, dans Sin City, comme il a voulu avoir Frank Miller en tant que co-réal, il a décidé en fait de se retirer de la Director's Guild justement pour pouvoir
permettre pour pouvoir le faire.
Voilà, c'est un des trucs.
Non, parce que sur Poltergeist, il y avait une autre raison qui aurait justifié le fait que ce soit Toby Hooper qui soit crédité. Alors qu'il l'ait fait ou pas, je suis pas en train de répondre à la question, puisque en effet, j'étais pas là, c'était pas moi. Juste, aucun d'entre nous, visiblement. Mais de quoi on parle, en fait? À l'époque, non, parce qu'il est producteur, mais il est aussi au scénario, et c'est lui qui a fait tout le storyboard. Hein. Vraiment, il a tout storyboardé. Et ça, par contre, il l'avait confirmé quand justement les rumeurs étaient très très incessante autour de ça. Il a confirmé qu'en effet il avait été au storyboard et qu'il avait bien indiqué des angles de caméra, etc. Donc après la part de créativité du réalisateur peut se poser aussi, peu importe. Mais de toute façon, il ne pouvait pas le faire à cette époque-là pour une bonne et simple raison, que c'est une raison très contractuelle, c'est qu'il était en plein contrat avec Universal pour faire E.T. Et donc il avait une interdiction de faire un autre film. Oui. Donc il ne pouvait littéralement pas faire Poltergeist. Donc même s'il voulait le faire, il ne pouvait pas. Donc est-ce que Toby Hooper est un prête-nom pour qu'il puisse faire le film qu'il n'avait pas le droit de faire ? La question reste encore là. Mais en effet, lui défendra toujours Toby Hooper en disant Toby Hooper n'est pas quelqu'un à qui on donne un truc à faire qu'il n'a pas décidé. C'est un auteur et je le défends. Ça, je reviens tout à fait à ce que disait Stéphane. Donc, mais en effet, de toute façon, la présence de Toby Hooper au générique, c'est aussi une part contractuelle si, en effet, c'est Spielberg qui l'a fait. Alors c'est contractuel avant toute chose.
Parce que là, on parle de cinéastes qui se seraient fait remplacer pour des raisons contractuelles, ce qui est vrai. Hein. Après, je vais être vachement plus dark que ça, moi. Il y a des milliards de films qui sont tournés pas par les personnes qui sont créditées. Alors, tu vas avoir des raisons contractuelles, tu vas avoir aussi des raisons, tout bêtement, des fois d'amitié, de choses comme ça. Effectivement, quelqu'un qui a eu une difficulté, tu le remplaces. Parce qu'on a le cas de Poltergeist, qui est toujours le plus récent, mais c'était déjà la chose de notre monde, tu vois. C'était crédité Christian Nivy, réalisé, même si ça reste pas sûr, par Howard Hawks. On a George Pancosmatos sur Rambo 2. Est-ce que c'est Stallone? Est-ce que c'est lui qui l'a fait?
Sur Tombstone.
Est-ce que c'est Kurt Russell? Bon, après, t'as mis le rumeur. Il y a une autre réalité qui n'est pas que par rapport au cinéma hollywoodien, mais à mon avis, vu ce que moi il m'est arrivé de voir en France, je vois pas pourquoi aux États-Unis ce serait pas pareil. Le nombre de films qui sont réalisés par le chef-op, qui sont réalisés par le premier assistant réel. Moi, j'ai vu de mes yeux des producteurs embaucher des réals, réaliser qu'ils n'étaient pas aptes à faire le film en phase de pré-production, que ça allait leur coûter trop cher de les virer, qu'ils les laissent au poste de réal en disant « Écoute, tu parles avec les acteurs, t'es gentil, t'es mignon. » Et on fait venir le premier assistant réal de notre tournage ou de notre truc, des mecs qui savent faire la technique, gérer le bidule. Tu viens là, tu t'occupes de tout. Et ça, c'est ultra fréquent. Et en France, énormément. Donc j'imagine aussi qu'il doit y avoir pléthore de productions aux États-Unis qui font ça. C'est-à-dire, c'est toujours un peu déprimant pour nous, cinéphages, quoi, de s'accrocher à des trucs.
La politique de l'auteur prend un coup dans ces cas-là.
Hein. Et de réaliser qu'en réalité, c'est une industrie qui, comme partout, est drivée par la politique d'une façon furieuse et pour des raisons financières hyper compliquées, qui fait que c'est, je dis pas que c'est rare, je dis pas que c'est ultra fréquent non plus, mais c'est quand même assez régulier. Et ça arrive pour mille raisons différentes.
Et surtout que ça paraît pas complètement anormal. Si on prend la littérature, par exemple, les fameux ghostwriters, ce qu'on appelle les nègres, c'est quelque chose qui est très 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 courant, institué, très très développé, institué. Ouais. Donc pourquoi ça serait valable en littérature et ça serait pas valable dans d'autres formes d'art? J'imagine qu'en peinture, ça serait quand même assez problématique aussi. Hein. De toute façon, si on apprenait que c'était pas Picasso qui avait fait ses peintures, on serait un petit peu genre homme. Merde. Enfin, ça ferait un petit
pas
peu.
Cool.
C'est pas... Oui, pas cool. C'est pas cool, Picasso. Mais
ça me fait toujours penser. Enfin, le film qui est pas là-dessus, il a mille niveaux de lecture, mais qui aborde ça aussi d'une manière très drôle, c'est Barton Fink. Donc remater Barton Fink, le rapport à l'art, l'absolu de Barton Fink pour le théâtre, la découverte d'Hollywood, la découverte que son auteur préféré en est en fait. Tous ses bouquins sont écrits par sa secrétaire. Enfin, c'est quelque chose qui est quand même hyper connu dans l'histoire d'Hollywood depuis extrêmement extrêmement longtemps.
Dans l'histoire de l'art,
voilà,
en général.
Voilà, donc effectivement, il y a des raisons contractuelles pour ça, il y a la Directors Guild pour ça, mais je pense qu'il y a mille autres. Parce qu'il ne faut, quand même pas déconner. Quelqu'un qui se fait chier à faire un film, ça lui passe quand même au travers de la gorge de ne pas pouvoir fondamentalement prendre le crédit de ce qui a été fait.
Travail.
Et il y a des. Non, mais c'est, ça. C'est... Après, il y a des gens qui l'acceptent, comme je te dis. Tous ces gens-là qui, sur des tournages où j'ai vu, en réalité, le pouvoir sont les auteurs et les réalisateurs du film et acceptent d'être bien payés pour fermer leur gueule. Tu vois bien comment fonctionne ce milieu. C'est un milieu où il faut faire attention à ce que tu revendiques parce que très, très rapidement, c'est un petit milieu. Donc, tout se sait, tout va très vite. Donc, j'ai presque envie de dire, plus que pour des raisons des fois financières ou contractuelles, il y a des raisons énormément politiques à ce que ça se produise de la sorte.
Tu crois pas si bien dire. Moi, un autre exemple, en fait, qui me fait... Après, le truc, c'est que nous, en tant que cinéphiles, c'est intéressant de voir... On prend le cas de Poltergeist. Là, en l'occurrence, quand tu regardes un film comme Dread, moi, je trouve que c'est difficile de faire la part entre qu'est-ce qu'Alex Garland a vraiment ramené sur ce film-là, en tout cas, visuellement, quoi, j'entends, et quand tu tournes le film. Quoi. Mais le truc, en fait, si tu veux, c'est qu'un cas comme Poltergeist... Je veux dire, c'est un film que tu peux totalement inscrire dans la carrière de Steven Spielberg au moment où il a été fait et qui se répond à E.T. en fait sur plein de points, quoi. Donc le pendant horrifique, on va dire entre guillemets, quoi. Mais par exemple, en fait, si tu veux dans des cas de logique politique, alors là pour le coup, c'est une anecdote qui est rapportée vraiment par Stallone lui-même sur le tournage des Faucons de la Nuit. Donc Faucons de la Nuit, dont réalisé par ton réalisateur préféré, Yann Bruce Malmuth, qui a fait Échec et mort avec Steven.
C'est pas la peine d'inventer des films
et des noms de réalisateurs.
Que Bruce Malmuth existe.
Il a réalisé Échec et mort.
C'est quand même un des meilleurs.
C'est un super titre. Échec et mort.
Hard to Kill.
C'est
bon, ça.
C'est mieux en français.
Et le premier jour du tournage, en fait, Bruce Malmuth monte sur une bagnole. Ça, c'est Stallone qui raconte le truc. Bruce. Alors. Une des rumeurs, c'est que Stallone aurait réalisé le film en sous-main. À l'époque, il avait déjà fait Rocky 2, il avait déjà fait La Taverne de l'Enfer, donc voilà. Et c'était encore une, enfin c'était la star de Rocky, mais c'était, il essayait encore de démontrer qu'il pouvait faire autre chose que Rocky justement. Et
il a fait Staying Alive.
En tant que réal, ouais. Mais il y a sûrement, à mon avis, il y a un truc à trouver entre Rocky 2.
C'est un truc qui se passe, tu vois.
Et donc,
les films se répondent là aussi, tu vois, quelque part comme Spielberg.
Franchement, franchement,
continue sur ton anecdote de Bruce Malmuth.
Et donc Bruce Malmuth, le premier jour de tournage, c'est Stallone qui raconte ça. Il a raconté ça une dizaine d'années, je crois, sur le site NT Cool News. Tu vois. Et en fait, Bruce Malmuth monte sur le capot d'une bagnole. C'est le premier jour de tournage. Il prend son mégaphone et il dit, voilà, je suis Bruce Malmuth, je suis réalisateur. Si vous avez des idées pour réaliser le film, venez me voir.
Ah merde.
C'est bon, ça.
Et là, tu peux technique pas faire originale. plus suicide politique que ça, quoi, parce qu'en fait, en gros, si tu veux, le mec, il s'est carrément fait sauter, quoi, en fait.
Ça me fait penser à Casso sur Babylon AD qui monte pareil et qui dit, je m'appelle fucking Kassovitz.
Peut-être pas le premier jour de tournage. Peut-être pas le premier jour de tournage. Et du coup,
attendu
en fait,
le deuxième.
Voilà, et du coup, en fait, t'as Stallone qui raconte que quand il a vu ça, il a dit, bah, autant dire que le mec était viré, quoi. Ouais. Et donc là, tu te dis, d'accord, mais il reste un film entier à tourner. Donc, comment tu fais, quoi, tu vois. Et là, en l'occurrence, bah, je pense qu'effectivement, les rumeurs en fait, qui considèrent que c'est Stallone qui a réalisé le film sont assez fondées. Voilà. D'ailleurs, il suffit de comparer, je pense, Les Faucons de la Nuit à Échec et mort. Pour voir
la grande différence.
C'est marrant aussi. Les films ne se répondent pas du tout. Non, mais pour que tu regardes même, tout simplement, que tu aies un œil un peu attentif sur des principes de mise en scène, ça... Des fois, ça, c'est flagrant chez un type qui est connu ou que tu suis, de voir que tu te dis cette séquence, c'est pas possible qu'elle ait été tournée par lui. On l'a vu avec les Wachowski sur V pour Vendetta. Moi, je me marre toujours avec, ouais. je me marre toujours avec X-Men 2. C'est toujours un film où X-Men, c'est un très mauvais film, mais X-Men 2. Je me rappelle toujours, tu te rappelles la séquence d'intro dans la Maison Blanche ? À chaque fois que je regarde cette séquence, l'apparition de Diablo pour la première fois, chaque fois que je regarde cette séquence, je me dis, elle est super bien foutue, elle est super bien montée, elle est hyper dynamique. jamais dans tout le reste du film et dans toute la carrière de Bryan Singer, il y a une scène rythmée, cadrée, filmée comme celle-là. Tu vois, et donc tu te dis au bout d'un moment, bon, ok, c'est peut-être le responsable de la seconde équipe
ou le coiffeur de Bryan Singer.
Non, mais je veux dire, à part quelques grands réalisateurs,
John Ottman sur le montage, non, mais en fait, surtout,
ou peut-être. Mais voilà, à part quelques grands qu'on connaît et dont on peut voir sur une filmographie qui a une tenue ou une évolution, en tout cas une certaine façon d'aborder les choses. Je veux dire, personne ne va pouvoir aller contester la mise en scène des frères Coen d'un film sur un autre. Tu vois ils ont une particularité dans la façon de gérer leur tournage, alors que il y a des milliers de cas où tu te dis c'est pas possible que ce blaireau ait fait une scène comme ça, ou c'est pas possible que ce génie ait fait un truc de merde comme ça. Enfin, et ça arrive tout le temps. En réalité, le cinéma c'est protéiforme totalement, et même dans la façon dont il est fabriqué, quoi, tu vois.
Ouais, puis c'est un cas de la méthode donne le résultat, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tout simplement, ce jour-là sur le plateau, il suffit que machin soit cassé la jambe, il est plus là, et on l'est remplacé par le cascadeur qui a pas bossé dessus pendant 3 semaines et qu'il faut quand même tourner la scène, et voilà, quoi.
Oui, parce qu'après, voilà, il n'y a pas que des raisons soit de réalisateurs qui montent sur des voitures pour dire qu'ils ne savent pas quoi faire, ou de copains. Je prends l'exemple d'un film qui s'appelle The Last Show de Robert Altman. C'est le dernier film de Robert Altman, hein. Il est mort un peu de temps après. Je me demande même s'il n'est pas mort avant la sortie, je ne me souviens plus, mais il est mort un peu de temps après.
Il est mort avant le film, du coup, apparemment, c'est pas lui.
Et donc, c'était pas lui. Mais de quoi tu parles, Périne? Et donc, non, et le film en soi a été, donc c'est bien lui au générique, c'est bien son nom, mais à ce qui paraît, pour tout ce qui était pratique pour diriger les acteurs, pour être vraiment sur le terrain du film, du tournage, c'était plutôt Paul Thomas Anderson en réalité qui était là, parce que justement, il est mort peu de temps après, il n'était pas en grande forme, Robert Altman, ouais. Donc en fait, il fallait quelqu'un qui puisse être physiquement,
mais
il n'est pas crédité, il n'est rien, c'est juste que c'est Paul Thomas Anderson qui a fait pas mal de choses sur The Last Show.
Ce qui est marrant quand même, c'est que Altman, c'est quand même connu, ce genre de truc, parce que t'as dans comment ça s'appelle le Nouvel Hollywood, le bouquin de Biskin. Bon, ce bouquin là il est très intéressant pour les mines d'infos. Après, tu enlèves complètement la théorie de l'auteur du mec, parce qu'il est complètement con, mais
faut enlever son avis à lui, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Mais le truc, c'est qu'il te raconte quand même, je sais plus sur quel film, je me demande, c'est pas sur Nashville ou sur McCabe, où en gros, si tu veux, il était tellement défoncé en permanence à l'alcool et aux drogues, en fait, Altman, qui dormait sur le plateau, et que les mecs lui mettaient une claque derrière la tête pour le réveiller, pour en gros, si tu veux, faire action et couper, quoi. Donc le truc, c'est que, et le type quand même t'explique dans le même élan, si tu veux, que donc lui, c'est un génie, parce que voilà, c'est Altman, quoi. Et quand Spielberg a créé une caméra, enfin, tu sais, créé un système en fait pour faire éjecter la péloche de sa caméra quand il l'a jetée du haut du truc, pour avoir un plan comment dire, de ouf, que personne n'avait jamais vu, pour pouvoir récupérer la péloche de son côté sur sa caméra Super 8, ça, c'était un petit geek à la con qui s'amusait avec ses jouets, quoi. Donc du coup, le truc est assez marrant, mais voilà. C'est vrai que pour le coup, Altman, ça fait des années en fait que
c'est Paul Thomas Anderson qui réalise tous ses films.
Non, mais que c'est connu qu'en fait, en gros, il en rame pas une sur les tournages. Mais le truc, c'est que.
Il n'en ramait pas une sur les tournages.
En tout cas, bon, si ce n'est peut-être Popeye, parce que là, je veux bien croire que c'est du tout fait, mais voilà, quoi.
Excellent film. Est-ce qu'on a des questions de nos amis auditeurs sur. On a une remarque de Martin qui nous dit: je vous trouve très beau, Isabelle Mergault a avoué que c'était le chef-op qui avait réalisé le film. Le pauvre.
Je pense que dans les comédies françaises, signées par des copains du producteur, on doit avoir beaucoup de chef-op. Mais en même temps, c'est bien qu'ils ne le disent pas trop.
On nous demande ce qu'on pense de Lubezki ou d'Elbonel, qui ont une patte si visible que Malick ou Iñárritu parfois disparaissent.
J'ai rien compris à ce que tu as dit.
Moi non plus.
Il parle des chefs-op.
Je pense qu'il parle des chefs-op.
Moi, je trouve pas que Iñárritu disparaisse des films.
Non, moi non plus.
Enfin, c'est quand même. Je pense que c'est une chose en fait de tourner.
C'est plutôt Denis Villeneuve qui disparaît.
Il y a une chose entre la mise en scène et l'image, la couleur de l'image. Lubezki, c'est la lumière, c'est la couleur. Et c'est vrai qu'une lumière de Lubezki, ça ne se rate pas. On le remarque tout de suite. Mais c'est pas lui qui fait la mise en scène.
Non. Et puis il y a surtout une question. Enfin là, par exemple, dans The Revenant ou même Birdman, il y a une question de conceptualisation de la mise en scène qui enfin. C'est une chose d'arriver à le faire, quoi, mais c'est une chose aussi de le conceptualiser. C'est-à-dire que, c'est marrant que les mecs partent sur une anecdote là-dessus, parce que pour le coup, enfin, qui pose la question sur ce genre de cas, parce que pour le coup, alors ça c'est pareil, c'est pour le coup, c'est purement du ressenti, et c'est très difficile d'avoir des informations là-dessus, quoi. Mais sur un film comme par exemple le Bonnie Stashers de Ferrara,
ouais,
que moi je trouve qu'il y a un excellent film, hein, vraiment, une des meilleures versions, enfin ceci dit, bon, il y en a eu 3-4 en fait officielles, et bon, il n'y en a qu'une qui est vraiment mauvaise, quoi. C'est la dernière avec Daniel Craig et Nicole Kidman. Mais sur ce film, c'est un film qui est signé Abel Ferrara, et il n'y a pas un film d'Abel Ferrara qui ressemble visuellement à Body Snatchers, qui est donc, dont la lumière est signée Bojan Bazeli. Ferrara, alors pour le coup, pour l'avoir interviewé, je veux dire, c'est quand même un mec qui s'endort devant toi. Enfin, vraiment, hein, quand tu lui poses des questions, il est très sympa. Hein,
mais
il s'endort devant toi. Bon, je pense que c'était le jet lag.
Il est vieux.
Voilà, je l'ai interviewé en 2001. Hein.
Mais il est déjà pas tout jeune non plus.
Il avait déjà 97 ans.
Voilà. Mais par contre, le truc, c'est que voilà, j'ai du mal à croire que Bazeli n'est pas. Parce que les chefs-op, c'est pas que la conceptualisation de la lumière, aussi de la mise en place. C'est-à-dire qu'il y a aussi des fois des cadreurs, ils cadrent derrière, ils se mettent derrière, ils opèrent la caméra.
Je ne réduis pas le rôle du tout du chef-op. Oui. Au contraire, c'est juste que je pense que dans le cadre, par exemple, de Lubetzky et Iñárritu, où c'était qui est Malik et
Delbonnel,
je ne pense pas que l'un efface l'autre ou quoi que ce soit. J'ai plutôt l'impression que c'est une parfaite coopération. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui se fait en symbiose.
Ouais, puis Malik, c'est encore une autre démarche en fait. C'est-à-dire que le truc avec Malik, c'est qu'il va shooter.
Ouais, Malik, c'est du montage en vrai.
Et puis à la fin, il va récupérer s'il veut récupérer, mais,
oui, voilà.
Mais il va faire son film à ce moment-là. Alors que justement, l'inverse avec en tout cas sur Birdman et
The Revenant.
Les The Revenant, c'est peut-être moins le cas sur Babel par exemple, où là, c'est un film qui a eu un an de montage derrière, je crois quasiment un an de tournage aussi. C'est peut-être voilà sur The Revenant ou sur Birdman, c'est conceptualisé à même, j'ai envie de dire, à même le plateau. Enfin, avant, mais à même le plateau, c'est tourné comme ça, quoi.
Oui.
Donc, du coup, et c'est d'ailleurs, encore une fois, la méthode donne le résultat, quoi, tout simplement, quoi. Et voilà. Mais dans le cas de Bazeli, voilà, j'ai du mal à croire, encore une fois, que
qu'il n'ait pas un peu mis les mains sur les.
Voilà, la même année, il a fait le chef-op aussi sur un excellent film aussi. Hein, et étrangement, le réalisateur est juste parti faire Sister Act 2 derrière. Donc,
qui
comme
est
quoi,
génial, au demeurant.
Voilà. Donc, voilà. Mais
tu peux chanter si vous voulez.
Non.
Ok.
C'est Dernière Limite de Bill Duke.
Ah putain,
et c'est Bazeli en fait qui est derrière la lumière, et c'est un super film. C'est un film avec ça, c'est pareil, tu connais pas.
Non, tu sais ce que j'en pense.
Voilà,
t'as déjà de la chance d'en penser quelque chose.
Il y a des trucs,
il y a
des trucs que je trouve limite dedans, mais qui n'ont rien à voir avec le cinéma, qui ont rien à voir l'idéologie que ça véhicule. Mais
d'accord, mais le truc en tout cas, c'est que
non,
c'est un film, je pense qu'il pense que c'est un film antisémite.
Voilà, je pense que ça,
mais c'est ce que j'ai dit du coup.
Mais le truc, c'est que voilà,
on dévie,
mais ça pour dire que voilà, c'est aussi un film qui a une très belle lumière et qui est quand même réalisé par le type qui a fait donc avant Rage in Harlem. Bon, ça allait, c'était sympa, mais c'est quand même pas Dernière Limite en termes de cinéma. Et donc derrière, c'est Sister Act 2 qui est le film préféré de Perrine, on vient de l'apprendre.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Je suis complètement outée. J'aime bien les films de nonnes.
Mais c'est ça. Mais je comprends. C'est
de nonnes qui chantent.
De nonnes qui chantent, bien sûr. De nonnes qui chantent.
C'est un style extrêmement spécifique. Le No Ciné Club continue, c'est désormais une tradition. Pour notre prochain sujet, on joue. Show me what you got. Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table. Comme on a causé d'Alex Garland et qui fait partie des réalisateurs qui, avec Netflix, tentent de s'implanter dans le monde du long métrage via la SVOD, petit questionnaire sur Netflix. Justement, 5 questions vraiment très dures, je vous le dis tout de suite, hein, c'est vraiment
d'accord.
Super vache.
C'est pour ça que c'était Rick et Morty.
Voilà, c'est pour ça que c'était Rick et Morty. Le premier qui trouve a gagné mon respect, hein, c'est déjà pas mal. Voilà, première question. L'idée de Netflix est née dans l'esprit de son créateur après qu'il a dû payer une amende pour avoir rendu en retard la VHS d'un film en 97. Mais de quel film s'agit-il? Je peux vous donner 3 choix si vous voulez.
Ah oui, bah ouais.
King Kong 2.
Non. Il y a 3 choix.
Tu dois ramener King Kong 2.
Il y a 3 choix. C'est soit Apollo 13, soit Forrest Gump, soit Alien.
Apollo 13.
Forrest Gump.
Apollo 13.
Apollo 13.
C'était au
bravo Yannick.
Au pifomètre.
Bravo Yannick. Bravo Yannick. L'arrière-grand-père du patron de Netflix, oui, ça va très loin, hein, a joué un rôle décisif dans la Seconde Guerre mondiale, mais lequel? La 3 propositions, quand même, tout de suite, je vous les donne.
C'était un des Hastings?
Non, pas du tout. Alors, soit il a financé la production et la distribution de films de propagande pour recruter des soldats, soit il a financé un espace de travail pour les scientifiques, dans lequel a notamment été développée la technologie du radar, essentielle dans le débarquement de Normandie, soit il a financé et mis au point un système de transmission de messages ayant permis de prendre de l'avance sur les nazis en termes de communication.
La première, il a fait un film de propagande.
Non.
La deuxième. Parce que c'était ultra précis.
C'était méga précis.
C'était un peu trop détaillé. Je me suis dit en le disant, celle-là, elle est trop détaillée.
En fait, elle est maligne.
Non, mais tu vois, je me suis dit, c'est beaucoup trop détaillé.
J'aime bien le en fait, elle est maligne, mais bien sûr que si.
J'ai voulu gagner, je suis trop vite.
Allez, on continue. En 2007, Netflix a lancé un concours pour améliorer son algorithme, conseillant à ses usagers des films en se basant sur leur goût, qu'on peut toujours utiliser sur la plateforme. Pour ce faire, ils ont demandé aux candidats de plancher sur un film. Mais lequel ? Là, je vous donne pas de choix.
King Kong 2.
Non, c'est toujours pas King Kong 2.
En quelle année tu dis ?
2007.
Oui, mais c'est pas un film de 2007.
Next. Alors, moi, j'ai reçu un mail de Netflix qui m'a dit vous avez aimé tel film, vous aimerez Next. Tu vois. Et en fait, c'est faux parce que j'ai vu Next. Je l'avais déjà vu, j'aime pas. Tu vois. Donc, en fait, ils marchent comment leur putain d'algorithme ?
C'est nul.
Et ça Next, ça date de 2007. Voilà.
Non, c'est pas Next. Merde. Non, c'est Napoleon Dynamite. Voilà.
Ah bon ?
Voilà.
Ouais, super, ouais. Les quiz possibles. Hein. Merci.
Alors,
hein,
Netflix, ça... j'ai pas fini. Netflix est très gourmand en bande passante, à tel point qu'aux heures de prime time, il squatte une bonne partie du web américain. Mais quel pourcentage ? Là, je vous donne quand même les propositions. 12%, 37% ou 54%.
Bon, bah les
37.
Couilles.
37, c'est ça. Bravo, Périne. Tu vois, t'as tort de t'en battre les couilles. T'es pas content,
t'es à donf,
tu peux pas gagner.
T'es à donf.
Allez, ça me rappelle l'histoire de EastEnders, c'est beaucoup plus drôle.
Une dernière question. Netflix a beau avoir connu un regain de popularité mondiale ces dernières années, l'entreprise est là depuis longtemps. Plus longtemps même qu'un autre géant du numérique, mais lequel ? Est-ce que c'est Apple, Google ou Facebook ?
Google.
Oui, c'est Google. Bravo, bravo. Google 98 et Netflix c'est 97.
Oh. C'était super.
Ouais. C'était super.
Non, moi j'ai appris plein de choses.
Vous avez appris des trucs.
Il a appris plein de choses, mais il les a déjà oubliés.
Tu dormiras moins con ce soir.
Voilà, c'est ça.
Peut-être.
Bravo. Sait-on jamais.
On continue. On sort tout juste de la grosse saison des remises de prix entre les Oscars qui nous ont pas déçus, en tout cas pas tous, en sacrant notre chouchou Guillermo del Toro et sa forme de l'eau, et les Césars qui n'ont pas perdu tout bon sens en récompensant Dupontel pour son très réussi à mon goût, en tout cas au revoir là-haut. Mais bref, quelle que soit l'issue, cette période des prix est toujours assez pénible, mais pour une fois, joie ou presque, on n'a quasiment pas entendu parler des fatigants Razzie Awards, prétendues remises de prix comiques, qui a surtout réussi à taper régulièrement à côté en nommant John McTiernan, Michael Cimino, Brian De Palma, même Stanley Kubrick quand même, pour des films devenus des classiques. Alors, ils se font discrets, les Razzies. Ils ont récompensé cette année The Emoji Movie ou encore Tom Cruise pour sa performance mémorable dans The Mummy. On n'en a presque pas entendu parler. Est-ce que c'est tant mieux ? Tiens, je vais demander ça à Perrine qui m'écoute pas.
Si, si, non, j'étais en train de me dire qu'ils avaient. Enfin, que Emoji et Tom Cruise pour La Mummy me paraissaient tout à fait.
Juste.
Enfin, voilà. En soi,
easy target.
Oui, complètement easy target pour le coup. Ils sont pas foulés outre mesure. Donc, pardon, tu peux me répéter la question ?
Est-ce que c'est tant mieux si on n'entend plus parler des Radio Awards ?
Oui, mais je pense que c'est cyclique en fait avec les Radio Awards, c'est qu'à un moment donné, ben là pour l'instant, ça a peut-être perdu de sa splendeur pour cette année. Je pense que ça reviendra à un moment donné quand les gens auront envie de se moquer. Là, c'était presque des cibles trop faciles cette année. Enfin, je suis désolée, quand on tape sur les emojis ou sur Fifty Shades of Grey ou La Momie, bon, c'est un peu facile. Ils avaient nommé Mother aussi cette année. Ils ont nommé Mother, et c'est un peu ce que tu disais il y a quelques phrases, c'est que ils ont tendance à taper sur des films qui peut-être potentiellement deviendront ou pas des classiques. Je ne sais pas si Mother va devenir un classique. Je ne vais pas me poser cette question ce soir. Je vous laisse décider ou pas.
On peut quand même espérer que c'est une proposition de cinéma plus intéressante que Emoji.
Et oui. Ben, je pense qu'il y en a certains qui pensent pas comme toi, mais moi je pense que oui. En effet, je pense que c'est une proposition de cinéma quand même beaucoup plus intéressante. Donc non, oui, la question elle se pose tout simplement de savoir si ce type tout simplement de remise de prix a du sens et de la valeur de manière générale. Est-ce qu'elles sont représentatives de la vie d'une époque? Moi, c'est plutôt cette question-là que je me pose, en fait. C'est est-ce que ils avaient nommé du Kubrick, ils ont nommé
Shining, ils ont nommé Les Portes du Paradis de Cimino, L'Année du Dragon de Cimino aussi, ils avaient nommé pour De Palma Scarface quand même.
Voilà, donc la question, c'est, je me dis, est-ce que c'est pas intéressant du point de vue de qu'est-ce qu'ils disent de leur époque au moment où ils le font. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on dit du mal ou du bien d'un film au moment où il sort, c'est un avis qui est valable à l'instant T, qui est valable avec l'histoire qu'on a eue avant, mais on n'a pas, évidemment pas le recul du futur. Ça, c'est évident, je fais une énorme palissade en disant ça. Mais donc justement, est-ce que ça ne veut pas dire quelque chose de l'époque, de la façon dont on voit les film, de la façon dont ils sont vus, appréciés, et sans ce recul-là, je compare ça, parce que j'en parlais hors micro tout à l'heure avec Stéphane, mais je compare ça, et là récemment est remontée une critique de Libé, si je dis pas de bêtises, qui date de la sortie de Retour vers le futur, qui est pas du tout sympa sur Retour vers le futur, ils ont tort, mais...
salaud.
Mais est-ce que, voilà, tout simplement, ça dit pas quelque chose de cette époque-là, de la façon dont on pouvait apprécier ce film, avec ce qui s'était passé, avec l'ambiance de l'époque, de la rédaction de l'époque, est-ce que c'est pas juste un témoignage historique? Est-ce que, moi je pose la question aussi aux autres, est-ce que les radis pourraient avoir cette ambition-là d'être un témoignage d'une époque? Ou est-ce que c'est juste une grosse blague qui tourne mal depuis trop longtemps?
Alors, je pense que déjà il faut séparer, par exemple, le fait qu'un mec comme Del Toro ait l'Oscar sur des films comme La Forme de l'eau. Ça va avoir une vraie répercussion sur sa carrière, alors que les radis, ça a zéro répercussion sur la carrière de personne, en fait. C'est à la limite, quand Alberi vient le chercher, ou même Verhoeven est venu chercher à l'époque de Showgirls, en fait, c'est vraiment pour tourner le truc en dérision. Bien aussi, sûr. Quoi. Je sais plus qui récemment a accepté aussi le truc, là.
Dwayne Johnson. Pour Baywatch.
Voilà. Donc le truc c'est que il y a eux ils le prennent. Je sais que quand t'en parles avec les Américains, ça les fait chier parce qu'ils disent mais c'est vraiment une cérémonie de merde, on s'en fout en fait. Oui. Voilà. Ce qui est vrai en fait, on peut s'en foutre complètement. Si ce n'est que effectivement moi je ce qui me fait pointer du doigt en fait une comment dire. C'est les raisons pour lesquelles voilà. Moi, par exemple, si tu veux, je vais pas te dire que c'est la plus grande performance de Tom Cruise hein, dans La Momie, parce que c'est vraiment un film de merde avec Tom Cruise qui est en mode automatique. Mais le fait est que je pense qu'on peut trouver sincèrement sur les 1 milliard de films qui sont sortis en 2017 une pire performance que celle de Tom Cruise.
Oui. Russell Crowe dans La Momie.
Par exemple,
on n'a pas besoin de regarder un autre film.
Non, mais voilà, c'est pour.
Je tiens à préciser quand même qu'on a fait une émission sur The Mummy à cause d'Éric Talent qui avait insisté pour qu'on fasse.
Avant qu'il voie, avant qu'il voie,
il l'a regardé. Ah, il l'a regardé amèrement sur la simple base de la bande-annonce.
Mais
tu me fais toujours avoir.
Ouais, je sais. Mais... T'as un petit cœur de fan.
Voilà. Mais le truc, en fait, c'est que, en fait, l'idée, c'est de se faire Tom Cruise. Encore une fois, c'est pareil. Là, je crois, une des personnes qui a été nommée, qu'il a eu d'ailleurs, en fait, cette année, c'est Mel Gibson alors moi, je l'ai vu, en plus, Very Bad Dads 2, là. Je l'ai vu parce qu'il y avait Mel Gibson, en plus.
Voilà, et Will Ferrell.
Et Will Ferrell, voilà. Mais le truc, c'est que, Mel Gibson.
On a fait une émission sur Very Bad Dads, le premier.
Le premier, c'est vrai qu'on l'avait fait, quoi. Et on a tout fait.
C'est quoi votre choix éditorial ici?
C'est assez compliqué.
Et le truc, en fait, si tu veux, c'est que l'idée, c'est de se taper Mel Gibson,
oui,
l'antisémite, tu vois, le type qui n'a pas le droit de revenir. En fait, c'est un peu, j'ai l'impression, le problème en fait de ce truc-là, c'est de se trouver des têtes de Turc, de leur taper sur la gueule. Je veux dire, la preuve en est que à chaque année, un mec comme Stallone a été nommé chaque année comme pire acteur, voilà. Donc encore une fois, je veux dire, si on revient sur tout l'historique, en fait, je veux bien qu'il était mauvais dans certains films que les mecs ont cités, mais là le type, en fait, il a gagné, je crois, le Razzie Award du pire acteur depuis l'histoire des Razzies, tu vois. Oui. Enfin, c'est des trucs comme ça. Donc en fait, ils ont leur tête de Turc, ils commencent à taper dessus. Bon, ça, c'est une chose. Et après, t'as effectivement la problématique effectivement de l'air du temps, comme dit Perrine. C'est-à-dire qu'en gros, on se retrouve quand même dans une configuration où un film comme Scarface... C'est là où moi, je trouve ça intéressant, en fait, que ça existe finalement. C'est que ça nous rappelle, en fait... Les Radio Awards nous rappellent que Scarface est un film qui a été détesté à l'époque où il est sorti, en salle. Et c'est bon de le rappeler parce que, en fait, les historiens du cinéma ont parfois la mémoire courte, en fait, sur ce genre de truc. Et on avait fait une émission sur les Rotten Tomatoes et sur les si tu t'en souviens, qui était aussi problématique parce que, voilà. On pointait du doigt que ce qui était problématique, c'est que ça permettait de réécrire, entre guillemets, l'histoire et que d'un seul coup, en fait, toutes les reviews qui étaient récupérées depuis ou réécrites ou refaites pour les sorties des Blu-ray, des salles, etc., toutes les notes étaient revues. Sauf que, il est bon de rappeler quand même que c'est des films qui se sont pris plein la gueule à l'époque de leur sortie pour une raison très spécifique. Un film pour moi comme Scarface, c'est un film qui avait totalement compris l'air du temps, qui critiquait totalement l'air du temps au moment où il était en train de sortir, et c'était juste pas du tout ce qu'il fallait faire à ce moment-là pour la plupart des gens.
Ils étaient prêts à entendre.
Exactement. Showgirls, c'est la même chose, en fait. C'est-à-dire, mais après, on peut, indépendamment de qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film, si tu veux, peux reconnaître ça à Showgirls. C'est un film qui tape, c'est un des rares films américains qui tape sur une aberration qui ne peut exister qu'aux États-Unis. C'est-à-dire une ville comme Las Vegas, qui est la ville pognon roi, quoi. Enfin, c'est-à-dire la plus évidente, et c'est un truc qui ne peut exister que dans un pays qui fonctionne sur le capitalisme, enfin voilà, comme une vertu, quoi. Qui prend ça comme une vertu. Donc le truc, en fait, si tu veux, c'est que quand tu vas aux États-Unis, que tu fais un film comme ça, et évidemment, il n'y a qu'un Européen qui pouvait vraiment faire ce film-là, et que tu leur expliques, tu leur mets le nez dans leur caca, bah forcément, les types se mettent à taper dessus, quoi. La distinction avec les Razzies aussi, c'est que les types sont persuadés de faire ça de manière assez objective. C'est-à-dire que, bon, ils se foutent. Si t'achetais un œil sur leur cérémonie, généralement très, très pauvrement capté, oui. T'as des images d'archives où tu les vois en train, par exemple, de parodier Whitney Houston et de chanter, en train de chanter. Merci. En lâchant des caisses, en fait. Alors, t'as un comédien qui est déguisé en travesti et qui lâche des voilà, mais parce que Raspberry Award, c'est ça les Raspberry, ça c'est lâcher une caisse, quoi. Bref, et le truc, en fait, si tu veux, c'est que
gros level.
Ah oui, non, mais c'est très high level. Mais c'est pour moi, c'est haut niveau, mais c'est intéressant du coup de se retrouver avec des films comme. La Porte du Paradis, qui, on sait que c'est un film qui a été détesté par la critique à l'époque où il est sorti, mais pour des raisons très spécifiques qui n'ont rien à voir avec le cinéma.
Non.
Scarface, pour des raisons très spécifiques qui n'ont rien à voir avec le cinéma. Last Action Hero, pour des raisons très spécifiques qui n'ont rien à voir avec le cinéma. C'est-à-dire qu'encore une fois, je veux dire, Last Action Hero, par exemple, c'est il fallait se faire Schwarzenegger. C'était qui la plus grosse star du moment à ce moment-là? C'était qui le type qu'il fallait déboulonner? C'était lui, quoi.
Ouais, mais c'est dommage parce qu'en fait, ça pourrait avoir une vocation d'être bouffon du roi, mais dans le sens contre-pouvoir. Mais ce qu'on dit là sur les Razzies vaut pour tout dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Donc il y a de plus en plus une absence de contre-pouvoir, qui soit médiatique ou qui soit de cette forme-là. J'ai envie de dire que c'est même plus tellement regardé parce que ils sont dans un. Comment te dire? Ils tirent sur l'ambulance. Sur des gens qui se tirent sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on est dans un monde qui est devenu, et dans le cinéma populaire, tellement dans la dérision, tellement dans la destruction des mythes, tellement dans aucun respect pour aucune forme de valeur qui va au-delà de celle véhiculée par la société aujourd'hui, que chacun se tire la bourre. Donc ces mecs-là ne sont plus relevant, comme on dirait aux États-Unis, tu vois, et alors qu'ils pourraient potentiellement avoir une véritable fonction pour stigmatiser ce qui est justement le pire travers qu'il y a aujourd'hui dans toutes les formes culturelles, c'est la récupération politique de tout. C'est-à-dire qu'on ne parle plus des œuvres d'art, on ne parle plus de cinéma, on ne parle pas de musique, on ne parle pas de littérature,
mais c'est ça.
On parle de ce que c'est censé vouloir dire par rapport à une éthique triomphante aujourd'hui. Et voilà. Donc ces mecs-là auraient la possibilité d'exister s'ils étaient cette voie anti-consensuelle, si tu veux, alors qu'ils font qu'aller dans le même bateau que tout le monde. Donc ils n'ont plus aucune valeur et ça n'a plus aucun intérêt.
Le problème, en fait, c'est que moi j'ai tendance à penser qu'ils peuvent pas faire partie du contre-pouvoir puisque c'est exactement ce qu'ils critiquent, en fait. C'est-à-dire que, en gros, pas tout le temps, enfin pas dans le cas d'Emoji, évidemment, je vais pas survendre Emoji là-dessus, j'ai même pas vu le film, mais j'ai envie de dire que là on a cité des films qui sont devenus des vrais classiques. C'est-à-dire que tu le veuilles ou non, je veux dire, plus personne ne peut vraiment considérer La Porte du Paradis comme un navet, quoi. Tu peux ne pas aimer, encore une fois, tu peux ne pas aimer le film, mais c'est pas le problème, quoi.
C'est comme Dread.
Voilà.
Témoignage de l'histoire, c'est ce que tu disais tout à l'heure. À part comme témoignage de l'histoire, je vois pas la valeur que
mais
ça.
Bien sûr, le truc c'est que mais même des films qui, entre guillemets, moi je pense c'était des petites perlouses lâchées comme ça, sans l'air de rien, même si les films c'est pas forcément considéré. Moi je les considère comme des grands films, mais je suis bien tout seul, je pense. Mais des films comme Hudson Hawk ou Fort Fairlane, voilà, c'est des films qui se sont fait taper sur la gueule parce qu'il fallait à un moment donné taper sur soit Joel Silver, soit sur Bruce Willis. Mais le fait est que c'est des films qui sont cultes aujourd'hui aussi, c'est-à-dire pour pas mal de gens, quoi. Donc le truc c'est que les types n'ont jamais compris. Il n'y a quand même pas contredire les mecs, ils ont nommé Terra Minet.
Je suis en train de te dire d'accord avec toi tout à l'heure, couillon.
Non, mais ils ont nommé.
Je suis pas du tout en train de dire.
Non, mais
il y a Perrine au milieu qui est terrorisé là. Vous vous rendez compte?
Ils tirent sur des ambulances. Ils vont dans le sens. Dans le sens des gnous, quoi. C'est tout. Donc t'es un gnou cynique, sarcastique, et tu dis lui c'est un gros bovin, je vais le taper dessus. Voilà, c'est ce qu'ils font. Donc il y a rien. Ils ne se distinguent ni par une dimension de passeur de quelle qu'elle soit, ni par une intelligence dans le jugement, ni par une volonté d'aller à contre-courant. Donc c'est juste des suiveurs à la con des tendances cyniques de connards bobos du moment. Puis ça s'arrête là, quoi.
Sans partir sur le vocabulaire de Yannick, je pense que.
T'es pas obligé.
Mais par contre, podcast, je peux dire comme
je vais reprendre. Je vais reprendre par contre ton petit côté anglais. Je trouve que en effet, oui, parce que tout à l'heure relevant.
je trouvais pas le mot en français et je t'emmerde.
Mais non, mais justement,
allons-y, c'est bon, on va pas y aller aux insultes.
Je suis d'accord avec toi dans le sens où moi non plus j'arrive pas à trouver le mot en français, donc je vais le dire en anglais comme toi. Il manque en effet, et je suis d'accord, je rejoins Yannick à ce niveau-là, il manque de purpose, comme on dit, ils n'ont pas de but
en fait. We try to be international.
Yes, en fait, we want to spread the podcast internationally.
C'est pas gagné.
Jusqu'en Bretagne au moins.
Ouais, c'est ça, encore.
Il y a des grands. Non, je vais pas faire ma blague. Elle était nulle à chier. Mais tout ça pour dire, non, je trouve qu'en effet, c'est qu'au bout d'un moment, si c'est taper, pour rigoler, pour faire des blagues de paix, moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas vraiment. C'est là où je me dis, il devrait avoir une. Il y a deux semaines, on parlait de Disaster Artist et on était un petit peu énervé sur Disaster Artist. En tout cas, moi, j'étais énervé sur Disaster Artist. Et on reprochait le principe. Oui.
Stéphane,
oui, mais par contre, on était d'accord là-dessus, Stéphane, c'est que on trouvait que le film, finalement, son problème, c'est qu'il n'avait pas de point de vue sur le personnage. Et ben, je trouve que c'est le même problème dans une autre dimension. Avec les Radio Awards, c'est qu'ils n'ont pas finalement de point de vue sur leur façon de critiquer les films ou de les nommer. Ou, au bout du compte, je ne sais pas ce qu'ils nomment, s'ils nomment vraiment objectivement des films pourris comme Emoji. Désolé, hein, pour Emoji, mais c'est vraiment pourri. Désolé pour les fans. Et
tu l'as vu ?
Non, je l'ai pas vu.
Ah bon ?
Et puis je sais que c'est nul. Enfin, vraiment. Non, mais juste regardez, juste une image. On sait que c'est pas bien. Arrêtez. Et après, est-ce qu'ils tapent sur Mother, sur parce qu'il faut se faire Jennifer Lawrence ou Darren Aronofsky ? J'en sais rien. Ils avaient fait une année, ils avaient nommé comment elle s'appelle ? Sandra Bullock. Elle avait eu le prix pour
The Blind Side.
Enfin,
elle avait eu l'Oscar.
Voilà.
Pour
et
The Blind
le lendemain,
Side.
Elle avait l'Oscar pour The Blind Side. Elle avait été nommée pour je sais plus quel film. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut. Je sais pas quel est leur but. Si c'est juste j'en reviens à ma question de départ. Est-ce que c'est juste de la grosse rigolade ou est-ce qu'ils ont une réelle ambition? Ma question, elle est là.
Je crois qu'il y a clair.
La réponse de Yannick était claire.
On est dans l'ère du ricanement, donc tu sais, c'est le ricanement pour le ricanement et puis ça s'arrête là.
Ouais, ça fait 40 ans que ça existe.
Mais oui. Mais si ça suivait par une certaine forme d'intelligence, on l'aurait repéré depuis longtemps.
Je crois même. Je me demande s'il n'y a pas une chanson en fait originale qui a été nommée à la fois dans les Razzies et dans les Oscars en fait la même année.
C'est
quoi.
Possible. Je suis même sûr qu'il y a dû avoir des doubles nominations à des moments.
C'est possible, oui. Il me semble que c'est possible. T'es juste en colère parce que c'est Michael Bay qui a le record de nominations aux Razzies. En fait.
Bah ça c'est couru d'avance. Hein. Ouais. Enfin voilà. Alors qu'on sait tous que Michael Bay va rester.
Oui, bien sûr.
Quand la Terre sera détruite. Okay. Qui restera un petit îlot comme ça, ils viendront chez moi, les extraterrestres, ils verront ils soulèveront les Blu-ray de Michael Bay, c'était ça la Terre, c'était Michael Bay, voilà, ce serait ça, tu vois.
Ils vont repartir assez vite.
Et ben.
Voilà, on va enchaîner quand même. Avant notre prochain sujet, voilà, j'ai réussi à le dire, évidemment, encore un petit jeu.
C'est danseur John Pepper. C'est. Tu vas la fermer, oui ou merde, on parle de Lénine, Vladimir Ilitch Ulyanov.
Et comme je sais que vous adorez ça, ce sera un jeu musical. 5 extraits de BO de films, 5 films nommés ou récompensés aux Radio Awards, histoire de rester sur notre dynamique précédente. Et oui, c'est parti.
Roadhouse.
Ouais.
Excuse-moi,
Yannick Dorn.
Trop facile,
c'est
Philippe Tavière.
C'est
trop
la BO facile. De Roadhouse, effectivement. Roadhouse Blues. Deuxième extrait.
Alors, facile, ça, je sais.
Ah là, les gars, si vous trouvez Roadhouse, c'est pas ça, franchement, je suis déçu.
Il a trouvé Roadhouse.
Oui, c'est vrai.
Mais si, ça c'est connu, ça. C'est hyper connu, oui. Steph.
Ah, mais si, je connais ça.
Mais si.
On va pas me dire c'est Scarface.
Bah, si, c'est Scarface.
Mais si, c'est Scarface, voilà. C'est Scarface.
C'est George Moroder pour Scarface. Troisième extrait.
Desperado.
Non. Ça ressemble
El Mariachi. Non, merde.
Non. Quelque chose, hein. Alors là, tu sais quoi, il y a un film qui me vient en tête. Je pense pas que soit ça, mais en fait, mais déjà, il faut se rappeler de ce film. C'était un film où Angelina Jolie a été cul nue avec Antonio Banderas pendant tout le film. Attends, ça s'appelait Original Sin.
Oh oui,
le film qui était censé être le truc super caliente, tu vois. Et c'était de la merde en bâton. Même les scènes de cul, elles étaient nazes.
Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai.
Voilà, et du coup, en fait, je sais pas pourquoi je vois la gueule
c'est
de Banderas
se pointer.
Attends.
Oh, attends, ça me dit quelque chose.
Mais moi aussi, ça me dit quelque chose grave.
Ah oui. C'est un film assez connu. Hein.
Ah, mais ça me permettre. Parle.
Qu'on considère comme un classique un peu aussi.
Et qui a été nominé au Razzies.
Ouais. Nommé.
Nommé, pardon.
C'est Boléro. C'est comment il s'appelait ce film de avec. Merde. C'est pas un film de cul, on dirait un film de cul, sans déconner.
Bon, c'est la BO de l'année du dragon.
L'année du dragon.
Ah
non, mais attends,
putain, il y a ça dans l'année du dragon.
Il y a ça dans l'année du dragon.
C'est qui la musique déjà?
Je sais plus son nom. Bravo. On s'en fout. Quatrième extrait.
Oh ouais, la Station Nero.
Bah oui. C'est big
game. Trop facile.
C'est trop facile, trop facile. Et le dernier extrait est pour Perrine.
Oh, Godzilla.
Bravo, Perrine.
Ouais, c'est bon. Ah putain, hallucine.
Ouais, c'est ça. Yeah. Non, mais c'est pour ceux qui ont raté l'épisode précédent, c'est parce que donc Perrine et Lilo Jimmy Batista ont confondu Rage Against the Machine avec ce morceau de Godzilla. Voilà, dans le précédent jeu. Voilà. Merci, merci de votre. Bah ouais, c'est ça.
Ah, c'est méta cette émission.
C'est ça, c'est méta cette émission. J'ai zoomé sur la feuille.
C'est assez symptomatique quand même, hein, que j'ai trouvé Roadhouse.
C'est assez moche, hein, oui, que tu aies trouvé Roadhouse.
C'est générationnel, non?
C'est générationnel, je pense. Allez, on continue. Avec Tomb Raider, auquel nous avons d'ailleurs consacré un mini-épisode de nos ciné avec Stéphane, c'était très bien. Les studios nous prouvent une nouvelle fois qu'ils ne renonceront jamais à tenter d'adapter au cinéma les franchises à succès d'où qu'elles viennent, même celles de l'univers du jeu vidéo, alors qu'ils savent pertinemment que 9 fois sur 10, à peu près, les chiffres sont de moi, le résultat sur grand écran, quelle que soit la qualité du jeu à l'origine, est rarement loin de la catastrophe industrielle. Les exemples sont nombreux, Tomb Raider déjà par le passé, par deux fois, mais aussi Mario Bros, Warcraft, Mortal Kombat, contrairement à ce que pense Stéphane, du genre, ou encore la terrifiante série des Resident Evil adaptée déjà 6 fois au cinéma avec un 7e en préparation. Einstein disait que la définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'attendre des résultats différents. On n'en est pas loin. Yannick, qu'est-ce que ça t'inspire, ces adaptations à répétition?
Qu'est-ce que ça m'inspire? Bah, écoute, ça m'inspire que c'est normal en réalité.
Oui,
c'est-à-dire
c'est
que
c'est
formes...
logique, j'ai envie de dire.
Voilà, non,
plus que normal.
C'est ça, c'est logique. Que les formes d'art s'inspirent mutuellement, c'est évident. Maintenant, c'est vrai que c'est plus dans le sens du cinéma qui va s'inspirer du jeu vidéo que de l'inverse. Moi, c'est ce que j'ai tendance à voir dans des choix de mise en scène, dans des volontés de récupérer des choses, une forme de langage qu'il y a dans le jeu vidéo. Et puis le jeu vidéo s'émancipe quand même, l'air de rien, qu'on le veuille ou pas, même s'il reste toujours un petit peu les reliques de cette vision qu'avait le jeu vidéo d'être un peu l'adolescent face au cinéma adulte et à essayer désespérément de coller. Alors, c'est un syndrome qu'il y a encore aujourd'hui où on essaye de retrouver dans un jeu vidéo, ce qui n'est pas toujours faisable, hein, l'émotion que peut procurer un montage au cinéma. Donc voilà, on utilise encore des cinématiques qui sont, pour moi, hein, malheureusement aujourd'hui encore, le parent pauvre du cinoche, qui est encore du jeu vidéo, je veux dire, qui est encore une façon de dire, on n'a pas encore trouvé totalement le moyen de raconter les histoires telles qu'on voudrait les raconter, même s'il y a énormément de tentatives aujourd'hui pour sortir de ces rails-là et essayer de trouver sa propre voie, et certains y arrivent très très bien. Par contre, dans le sens inverse, c'est vrai que c'est assez pitoyable. Il faudrait vraiment des metteurs en scène qui comprennent qu'on ne prend pas littéralement un jeu vidéo, c'est en comprendre la quintessence et l'adapter à ce qu'est le médium cinématographique. C'est pas un jeu vidéo, donc quand tu vois un Doom qui te refait une séquence FPS à la fin, tu te dis bon ben t'as rien compris, ou quand tu vois je sais pas Hitman ou d'autres trucs qui vont te citer le jeu vidéo à l'intérieur du film, tu te dis vous avez rien compris. Voilà, pour l'instant j'ai pas tout en tête, j'ai pas souvenir d'une adaptation de jeu vidéo qui soit vraiment ne serait-ce que correcte.
Mortal Kombat.
Oui, alors, non mais Mortal Kombat c'est fun. Mortal Kombat c'est fun
mais
parce
y a
que
Christophe Lambert déjà.
Non mais des... oui. Donc bon, alors, cool. Lui je sais qu'il est fan du deuxième. Hein. Il est énormément fan du deuxième.
Ouais, ça,
moi je suis fan du premier.
Mortal Kombat 2 c'est la meilleure copie de travail que tu as jamais vu en
moi,
salle.
Voilà. Moi je suis fan. Mais c'est ça. Moi je suis fan du premier. Non mais parce que les mecs ils sont pas allés plus loin que on va faire littéralement c'est canal le jeu. Donc on a une histoire de merde. On réunit 45 bonhommes et ça se latte. Et ça se latte avec de la techno avec un mec qui dit finish him à la fin. Ils sont pas allés plus loin que ça. Et au final ça fait le job. À l'époque, ça c'est le job.
Mais non.
Non, mais voilà. Mais est-ce qu'on a eu une adaptation? Pourquoi je pose la question? Parce que je me suis fait la réflexion récemment et je me suis dit ah oui, il y a ce truc-là qui était correct. Mais là, ça me revient pas du tout en tête. Est-ce que vous vous rappelez pas d'une adaptation?
Resident Evil 4.
Non, que,
pas mal.
Honnêtement,
d'un jeu vidéo adapté en film qui était un tant soit peu correct.
Mario Bros.
Non.
Non plus. Non, parce que en fait, honnêtement, même c'était quoi le truc qu'on est allé voir ensemble à Warcraft?
Oh non, c'est
juste carrément honteux.
Catastrophique.
Donc je pense pas. Après, je pense que le truc en fait, si tu veux, c'est que je prends la parole, hein, puisque
je réfléchis
pendant qu'Yannick est en train de réfléchir.
Non, je pense que l'adaptation des jeux vidéo.
En fait, le problème qui se pose sur ces trucs-là, c'est pas uniquement en fait effectivement de se poser les questions de qu'est-ce qui fonctionne dans un jeu vidéo et comment finalement finalement on va le retranscrire ça au cinéma, c'est que en fait il y a aussi, enfin en fait quand tu aujourd'hui les jeux vidéo, la façon dont c'est construit, ça prend, c'est censé prendre beaucoup de paramètres en considération. Et une des grosses distinctions en fait entre le cinéma et le jeu vidéo, et notamment dans la façon dont les jeux se font aujourd'hui, c'est que un film de cinéma, en fait, le scénario c'est la base. Donc tu vas écrire un scénario et c'est sur ce scénario que tout le monde va travailler pour essayer de faire le film, quoi. Un jeu vidéo, tu vas construire en fait un moteur de jeu, tu vas construire en fait des boucles de gameplay, tu vas construire. Il faut que t'es une build en fait qui fonctionne sur ces bases-là avant même que tu mettes quoi que ce soit dedans. Il faut que ça soit fun à jouer en fait. Il faut que ça soit fun à apprendre en main en fait. L'interactivité est vraiment au centre en fait de ce que t'as besoin de faire. Et du coup, le scénario arrive en dernière main. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc qui est écrit à la fin. Et du coup, ça devient très très difficile d'écrire un scénario de jeu vidéo, beaucoup plus difficile que d'écrire un scénario de film en fait. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que quand les mecs ratent leurs adaptations, pour moi, hein, c'est pas qu'une question de j'ai pas compris l'univers que je suis en train d'adapter parce que j'y ai pas joué. Ça y est, ça existe, hein, c'est comme le disait Yannick, quoi. Mais il y a aussi je me suis pas fait chier, quoi. Oui. C'est-à-dire que j'ai une façon d'aborder le jeu vidéo qui pour moi revient à peu près à la façon dont le comic book était abordé dans les années 70-80. On va dire, si on met de côté le Superman de Donner et éventuellement le Batman de Burton, il y a une approche en fait, si tu veux, qui est bah, le comic book de toute façon c'est pour les débiles mentaux, c'est pour les gamins, c'est pour machin, donc j'en ai rien à foutre et puis roule ma poule et voilà. Et tu te retrouves avec les séries, enfin les adaptations télé de Captain America ou ce genre de choses, en fait des trucs où les mecs mettent pas d'argent parce qu'ils y croient pas une seconde, quoi. Et 40 ans après tu vois bien que c'est partout, quoi. Donc le truc en fait, si tu veux, c'est que moi je pense qu'il y a encore cette approche. Il y avait quelques tentatives, hein, dans les années 2000 notamment, il y a eu successivement Peter Jackson, Guillermo del Toro et Neil Blomkamp qui ont bossé sur Halo, sur un film Halo. Et oui. c'est pourtant pas le jeu le plus facile, je pense, à adapter, parce que précisément, je pense que t'as un univers qui existe, t'as une mythologie qui existe, mais les histoires, c'est t'avances, tu tires. Et, oui.
Parce que voilà. Le problème, il l'a bien résumé. Le problème, il est là, c'est que tu ne peux pas adapter un jeu vidéo en focalisant sur son contexte ou en focalisant sur son scénario. C'est impossible. Le contexte est souvent extrêmement prétexte. Pour bosser dans le jeu vidéo aussi, je sais que économiquement, les choix de contexte sont faits en fonction des choix de marché, ne sont pas faits forcément en fonction des choix artistiques. C'est pour ça que tu n'as pas beaucoup de jeux vidéo qui se passent en Ouzbékistan et que tu en as beaucoup qui se passent aux États-Unis. Ça, c'est une première réalité. Et effectivement, le deuxième, c'est que le scénario est un enrobage. Le scénario est un enrobage dans le jeu vidéo qui sert à donner... Enfin, c'est comme si tu tendais la main à un joueur qui pourrait être potentiellement paumé. Mais en réalité, l'expérience d'un jeu vidéo est une expérience interactive, c'est une expérience d'immersion, c'est une expérience émotionnelle avec le pad en main et les actions que tu produis. Est-ce que le jeu vidéo te dit, ne te dit pas à l'instant T où tu joues ? Et une véritable adaptation arrivera le jour où un mec comprendra ça et essaiera de se dire comment, à travers le langage cinématographique, je vais réussir à produire sinon la même réflexion, en tout cas le même type d'émotion, l'émotion centrale qui caractérise. Quand on parlait de Tomb Raider, Tomb Raider, c'est extrêmement particulier comme univers. En tout cas, quand tu regardais les premières adaptations, il y avait un sentiment d'aventure, un sentiment d'exploration, un sentiment de solitude dans des temples gigantesques où il y a une notion de spatialité à prendre en compte, de se repérer là-dedans. Tout ça, c'est très difficile de traduire ça dans un film qui, lui, doit avoir un canevas genre A plus B, je vais vers là. Et c'est toute la complexité. Parce que si tu n'extrais du jeu vidéo fondamentalement que son scénario ou son contexte, les trois quarts du temps, c'est quand même de la merde. Tu vois ce que il faut être honnête. C'est rare les concepts de jeux vidéo qui sont à la mesure de certains concepts cinématographiques comme on peut en avoir. C'est pas du tout la même chose.
Ce que j'allais dire par rapport à ça, c'est que moi, à cette table, je pense que je suis celle qui joue le moins aux jeux vidéo. Ok, d'accord, on est deux. je joue pas du tout à ça. Par contre, j'imagine que, un peu à la manière d'un livre, de manière très différente, quand on lit un livre qui n'a pas d'image, on se fait une histoire dans sa tête, on le projette d'une certaine façon. Quand on joue à un jeu vidéo, en effet, nos actions, donc il y a peut-être un cadre de base, comme vous disiez, il y a un contexte, etc., mais c'est nos actions qui vont décider de la structure de l'histoire d'une certaine façon. Il y a une structure, il y a un chemin à suivre, je suis d'accord avec vous, mais c'est quand même toi qui décides que d'un seul coup tu vas aller à gauche ou tu vas aller à droite.
Donc en fait, tu participes.
C'est cette histoire d'interaction, c'est toi qui participes. Donc à partir du moment où on adapte le jeu vidéo, forcément, on impose une direction au personnage. D'un seul coup, c'est, on n'a plus cette partie où c'est nous qui décidons. Et je me dis, un film qui n'est pas une adaptation de jeu vidéo pour le coup, mais qui essaie de reprendre plus ou moins cette histoire de gameplay, en le réussissant, pas, c'est pas la question, mais qui essayait un minimum, c'était le dernier Jumanji. Je sais pas si vous l'avez vu.
Mais moi, je trouve que ça justement pas réussi du tout, parce qu'en fait, ils abandonnent le truc au fur et à mesure.
Mais au moins, ce que j'aimais bien dans le pitch de départ, dans l'idée de départ, et ce qu'ils essayaient de faire, c'est que d'un seul coup, donc nos personnages principaux qu'on suit, eux-mêmes sont les joueurs et donc doivent faire des actions et décident de leurs actions, comme quand on est dans un jeu vidéo, qu'on décide de ses actions, de sortir de ses armes, pas sortir ses armes, d'aller à tel endroit ou pas aller à tel endroit. Et donc je pense que c'est là où j'ai trouvé ça peut-être presque l'approche la plus proche du jeu vidéo que l'adaptation pure et dure. Et je termine juste un autre truc qui n'est pas lié à Jurassic Park. Non, ça c'est ce que j'ai envie de voir encore et encore. À Jumanji. C'est que tu parlais des contextes de jeux vidéo. J'ai pensé à une adaptation récente, c'était le Assassin's Creed, qui pour le coup a des contextes vraiment intéressants, parce qu'à chaque fois c'est des contextes historiques, il y a beaucoup de choses à raconter. Là c'était le Séville pendant l'Inquisition, merci. Donc il y avait beaucoup de choses à raconter, et le film passe littéralement à côté de tout ça, mais alors d'une manière absolument prodigieuse, que c'est assez scandaleux.
Ça c'est un autre cas d'école. Hein. Enfin, c'est...
Oui, mais ce que je veux dire c'est que c'est dommage, parce que quand justement t'as une base de départ où tu pouvais largement raconter quelque chose en te servant du contexte du jeu vidéo... Et ben le mec est même pas capable de le faire. Donc
la seule chose qui est intéressante éventuellement à retenir dans un truc comme Assassin's Creed, on avait fait un podcast à l'époque, hein, c'est tout simplement.
Je vais dans des poncifs, les gars.
Non, pas du tout. Mais... Acte 2, par contre, on peut prévoir.
Merci.
Pour
est-ce
la
qu'on
prochaine
peut
session.
Oui, s'il vous plaît. 1 et 2.
Voilà, d'accord.
Alors 25 minutes.
Ah bah une bonne demi-heure, j'ai envie de te dire au moins.
Le seul truc qui est intéressant éventuellement, je le répète, voilà, je l'avais dit à l'époque, qui dans un truc comme Assassin's Creed, c'est que tout simplement en fait dans la logique en fait de production du film, ils ont décidé de raconter une histoire qui était différente de celle des jeux justement. C'est-à-dire que en fait ils suffisamment confiance dans leur univers pour ne pas répéter une histoire qui était dans Assassin 1 ou 2 ou je sais pas quoi. Mais après bon voilà, le film il est ce qu'il est et c'est bien le seul mérite. Ouais. Le problème, en fait, c'est que, comme tu le pointes du doigt, je pense que il y a une espèce de problématique de se poser des questions, en fait, de qui va voir ce genre de film aussi. C'est-à-dire que, en gros, est-ce qu'on va attirer... là, on sait que, par exemple, le comic book, on sait qu'on attire les gens qui lisent les comic books, mais c'est pas que, parce qu'en fait, sinon, ça ferait jamais un milliard, en fait. Parce que, les meilleures ventes de comic book mensuelles, c'est quoi aujourd'hui, éventuellement 1, 2 millions pour un Spider-Man, quoi. Oui. Mais le truc, c'est que 1 ou 2 millions, ça se transcrit pas, en fait, quand tu passes au grand écran et quand tu gagnes un milliard par film, comme c'est le cas avec Marvel, quasiment, quoi. Donc je pense qu'il y a toute une idée de partir de cette base et d'ouvrir, quoi. Le problème avec le jeu vidéo, c'est qu'il y a une différence dans le sens où si on interpelle les joueurs, on est déjà en train de leur enlever quelque chose.
Oui.
Donc c'est pour ça que je pense que l'approche du bi était intéressante, en tout cas sur Assassin's Creed, parce qu'il leur proposait aux fans d'Assassin's Creed de voir une autre histoire, mais que le jeu vidéo n'avait pas faite. Alors que là, le problème, c'est que si tu leur enlèves l'interactivité, t'as intérêt à avoir un film qui est sacrément bétonné, quoi, derrière. Non, c'est même, et le problème, c'est que c'est pas le cas, quoi.
Oui, et puis c'est même, à mon avis, c'est même la seule option. La seule option, c'est parce qu'il faut pas rêver. Les films qui sont adaptés pour de jeux vidéo ne le sont pas faits pour la beauté du jeu vidéo. Chez les studios, ils vont pas plus loin de « Ah putain, ça s'est vendu à 15 millions. On a trop... »
On a
un potentiel pas possible de... Parce qu'ils vont pas plus loin que regarder les équations, si tu veux. Ils se disent « Ah, autant de mecs qui jouent, ils vont tous aller voir le film. » Et ils se ramassent tous la gueule. Mais effectivement, en fait, tu joues sur une attitude de fan. Les fans sont fans d'un univers, mais c'est marrant parce que tu vas être fan à jouer à World of Warcraft comme un malade mental parce que tu fais des raids, parce que t'es avec une dizaine de potes en coop, parce que les aventures, et de plus en plus les jeux vont dans la direction où c'est l'émergence qui va primer sur la narration imposée par les développeurs. Donc de toute manière, quoi qu'il advienne, de plus en plus aujourd'hui, les gens se font leur propre histoire. Et ça va aller autant de Rainbow Six à Call of, à League of Legends, et à tout ce que tu veux. Et au final, c'est un univers complètement à part. Alors évidemment qu'un gros studio qui va dire « Oh, je fais World of Warcraft, je vais faire League of Legends, le jeu, même si les mecs vont peut-être pas se poser 3 secondes la question, ah, c'est cool, je vais aller le voir, mais c'est intraduisible. Au bout d'un moment, il faut laisser les univers où ils sont. Et effectivement, lui, comme d'autres le feront probablement à un moment donné, sont malins dans l'idée de se dire, là, on a un jeu à potentiel narratif. Oui. Mais dans l'idée de narration cinématographique, parce que c'est le cas d'Assassin, comme ça va être le cas d'Uncharted, je crois qu'ils vont l'adapter, ou d'autres jeux, ou Last of Us, ou des jeux comme ça, mais ces jeux-là, dont on peut prendre la substantifique moelle et se dire on va raconter un spin-off, une variante, un truc comme ça. Ok, très bien, mais ils sont amenés à disparaître. Mmh. Que les choses soient claires. Le jeu vidéo va aller de moins en moins là-dessus. Pas parce que c'est des mauvais jeux, pas parce qu'il faut absolument se distinguer du cinéma. Ça va être toujours, et encore une fois, pour des raisons purement économiques. Mmh. Les mecs qui vont jouer à Last of Us ou qui vont jouer à Uncharted, ils vont cartonner. C'est des jeux de cartonnent, vont faire, je sais pas, 12 millions de ventes, 13 millions de ventes. Le jeu, il est mort, c'est fini. Tu joues à des jeux comme les Rainbow, comme les League of Legends, c'est interminable. World of Warcraft, c'est interminable. Ça, non, mais ce que je
c'est parce qu'il y a des gens qui enfin, parce qu'il faut préciser pour les parce que nous ouais. on fait une émission de ciné, hein, donc il faut peut-être préciser pour les gens qui jouent pas aux jeux vidéo, parce que par exemple un jeu comme Rainbow, la logique derrière Rainbow, c'est que c'est un jeu à service, c'est-à-dire
oui,
qu'en
c'est
gros
ça,
tu complètement... tu proposes, ouais mais toi tu le sais, mais
oui, je pardon,
le, voilà, merci de me préciser.
Voilà, et le truc,
oui,
c'est
jeu à service dans le sens où j'explique vite fait, dans le sens où le jeu c'est un jeu où il y a pas de fin, c'est un jeu multijoueur avec plein où tu as des compètes, où c'est interminable. Putain, le principe du jeu, c'est que tu peux y jouer indéfiniment.
Tu vois.
Non, alors
ouais, quand il croche, ça pique ton pognon pour rien. C'est, tout.
C'est juste drôle de vous voir réagir. Hein, c'était juste ça.
Non, mais dans ce que tu dis, il y a cette logique en fait que parce qu'effectivement, un jeu comme Rainbow, par exemple, un Rainbow Six, bah t'as 3 millions de joueurs par jour.
Ouais.
Dans le monde entier, quoi.
Il y a
fait.
Des donc, gens qui jouent encore online de GTA, ça fait que 5 ans qu'il
voilà,
est sorti.
Voilà, c'est ça. Et le truc, et en fait,
World of Warcraft, ça fait 10 ans presque
et
qu'il
coup,
est sorti.
T'as la monétisation qui va avec, t'as tous ces trucs-là qui font qu'en fait, les types, ils continuent à recevoir, en gros, un type qui va s'investir, on va dire, je sais pas, 3 ans dans le même jeu. Bah, quand l'éditeur lui propose d'acheter, je sais pas moi, pour telle somme, son flingue en version dorée, ou je sais pas, enfin non, peu importe, en fait, bah, les petites monétisations comme ça, ça va même te coûter peut-être 2$, 3$, 5$, bah, les mecs l'achètent parce qu'en fait, ça leur casse un petit peu leur monotonie. Voilà, t'as tout un truc comme ça, mais après. Voilà où je suis pas aussi noir que toi.
Non, mais je suis pas noir. Je dis juste que immanquablement à terme, ça veut pas dire à court terme, ça veut pas dire dans les 3 ans qui vont venir. Mais on voit l'évolution du jeu vidéo, on voit le développement d'open world systémique qui font que injecter de la narration autrement que cinématographiquement dans des open world systémiques est extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'au final, tu dis au joueur, tu as la liberté de faire ce que tu veux, mais quand même. Tu vas aller de la mission A à la mission B pour suivre la campagne principale. C'est quelque chose qui devient de plus en plus obsolète. Mmh. Et les joueurs en ont de moins en moins besoin. Et la plupart des open world qui se créent, qui sont visuellement bluffants, avec des systèmes incroyables, avec du co-op, du PVP, de tout ce que tu veux, bah petit à petit, la narration, telle qu'on l'a concevée, comme héritière du cinéma, est en train de progressivement se diluer.
Mais pour revenir sur le sujet, ce qui est intéressant là-dedans, justement, c'est que c'est la problématique d'immersion. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu te retrouves avec des univers, en fait, où tu passes par la force de l'interactivité, tu as déjà une porte d'entrée c'est toi, en fait, c'est toi qui prends les choses en main, et le système te le permet. Et tu as une logique d'immersion. Le problème, en fait, avec les films, justement, c'est que le cinéma, ça le permet. À sa manière, dans la narration, dans la façon d'impliquer le spectateur. Et le problème, en fait, c'est que ces films-là, à force d'essayer de se poser des questions d'adaptation pure, ne se posent pas là, tout simplement la question d'immerger le spectateur, en fait, dans cet univers-là. Et du coup, en fait, quel que soit le Mario, le machin, même si les mecs ils se disent, bon, alors comment on va faire pour faire comprendre que Mario, ça existe dans le vrai monde, mais en même temps, enfin voilà, t'as envie de leur dire, mais il faut pas essayer. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est même
mais
pas.
C'est ça, mais même, je me demande même si le concept d'adaptation de jeux vidéo, en réalité, c'est trop long, hein, on s'en fout. le concept d'adaptation de jeux vidéo en soi, il pose problème, ne serait-ce qu'en termes purement sémantiques. Ce que ça veut dire, c'est improbable. On a des gens qui vont te dire, ah ben, en réalité, la meilleure adaptation d'un jeu vidéo, par exemple, on va entendre c'est District 9, tu vois, parce qu'ils ont entendu que le mec allait faire Halo, où on va te dire, je sais pas, nous à notre époque, on se dit, bah, Commando, c'est un film de bourrin, tu bon, alors c'est non, des
c'est
mécaniques.
Vrai c'est vrai qu'il y a des films il y a des jeux qui sont inspirés de films, en fait, comme Commando,
comme il y a des films qui vont s'inspirer de certaines mécaniques, mais comme tu le disais toi-même, à partir du moment où tu enlèves une interactivité, tu enlèves la quintessence d'un jeu vidéo, donc c'est plus vraiment une adaptation, quoi qu'il advienne. C'est l'adaptation de vagues éléments contextuels et narratifs, et ça s'arrêtera là.
Et ça s'arrête là. C'est bien. C'est bien, vois, comme, c'est bien comme
phrase. Je te fais la compte, dire quelque chose.
Non, Perrine, tu voulais rajouter un truc. Vas-y, Perrine, on est au point.
D'accord.
On...
Mais... Oh, ok, mais alors c'est très court. C'est juste sur le fait qu'en effet, je pense que plus ça va aller, moins il y a de sens d'adapter du jeu vidéo au cinéma, parce que pour moi, le jeu vidéo, c'est l'interactivité, ce que n'est pas le cinéma de base, puisqu'on n'est pas en train de décider ce qu'on est en train de voir à l'écran. Et pour moi, ça se différencie autant que, dès le départ, on a voulu rapprocher la VR, par exemple, la réalité virtuelle du cinéma, alors que c'est deux grammaires très très différentes qui, pour moi, sont tout à fait. Ne se base pas sur les mêmes choses et ne discute pas des mêmes c'est pas le même vocabulaire, c'est pas la même grammaire. Et pour moi, le jeu vidéo, c'est la même chose. Tu peux pas adapter un jeu vidéo vraiment au cinéma, parce qu'il te manque forcément une part essentielle du jeu vidéo, qui est l'interaction, et comme dans la VR où c'est toi qui décides d'où tu regardes, ce qui n'est pas le cas au cinéma.
Oui, mais si je puis me permettre, sans que ça soit une adaptation, la possibilité qui peut se produire, c'est qu'aujourd'hui ces fameux open world qui sont obligés de développer des règles qui servent aux mécaniques de gameplay et aux systèmes qui évoluent dans le jeu. C'est comme si je te parle du panthéon de la mythologie grecque ou d'autres trucs où effectivement tu vas avoir des dieux et pendant longtemps la tradition orale a fait que on prenait ces personnages, ces histoires, on les mélangeait, on en faisait mille histoires comme on voulait, qu'on racontait différemment tous les côtés. Le cinéma, s'il veut s'inspirer des univers de jeux vidéo, peut en prendre des éléments qui sont des piliers fondateurs des jeux, ou alors la mythologie de ces jeux-là, et s'amuser avec des éléments de la mythologie de ces mondes-là, et en faire des histoires héritières de la tradition orale et de la narration classique, raconter des histoires qui peuvent être connectées d'une manière ou d'une autre, ce qu'avaient très très bien compris les Wachowski à l'époque, où ils avaient l'ambition de faire un multivers, si tu veux, avec la saga Matrix. Ils n'avaient pas eu les moyens de le faire, mais cette vocation à raconter par différents prismes un même monde, et avec différents supports, différentes formes de narration, c'est intéressant. Maintenant, comme tu le dis, et je suis d'accord, l'idée d'adapter ce que serait un jeu est fondamentalement, par essence, pas possible.
Très bien. Très bien, on s'approche dangereusement de la fin, les amis. Mais vous pensiez y échapper, mais non. Il y a encore un jeu, un dernier.
Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé.
Et celui-là, vous le savez, je l'adore. C'est mon préféré, c'est l'instant VF, un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière. Celui qui trouve récolte notre plus grande admiration à tous. C'est parti.
Me prendre pour cible ne leur rendra pas leur argent. J'attendais un sursaut de la pègre, mais là, ils ont vraiment... dépasser les limites.
C'est vous qui les avez dépassés, monsieur. Vous les avez pressés et persécutés jusqu'au désespoir. Et dans leur désespoir, ils se sont tournés vers un individu difficile à saisir.
J'avoue que j'ai été particulièrement vache. Oui, c'est The Dark Knight.
Balèze. Hein.
T'es trop forte, Perrine.
Ah ouais, t'es forte.
La version québécoise.
c'est peut-être la version québécoise.
Non, c'est le changement de voix. Je me suis dit, il y en a un derrière, c'est le majordome.
T'as reconnu, Mike Cocon. Je fais très mal.
Voilà.
Merci beaucoup d'avoir joué. J'avais un deuxième extrait, mais tant pis, on l'écoutera une autre fois.
Pourquoi ?
Ah, mais c'est le même film. Ah, ouais, voilà, on s'en fout. Bien ce que je pensais, on passe à la suite. Voilà, on déballe les questions de nos amis.
C'est un jingle ou quoi?
Oui, c'est un jingle.
Ah, d'accord.
Ouais, bah, c'est pas moi qui
crie. Vous m'avez largué,
mais c'est pas moi, c'est pas moi qui crie dans les micros.
Je crois que c'est un extrait de film.
C'est une virgule, ça vient d'une vidéo virale d'Internet. Du coup, voilà.
J'allais dire Ben Affleck dans Jay and Silent Bob Strike Back. Quoi.
Non, pas du tout. Même pas. On déballe donc quelques questions rapidement, parce que ça fait déjà au moins 6 heures qu'on parle de nos amis internautes. On nous demande si on a des nouvelles de l'adaptation du comic book The Goon d'Eric Powell, initialement produit par David Fincher.
Suite était bien.
Ouais, les dernières nouvelles qu'on a eues, c'était que ça devait justement être réalisé par Tim Miller. Tim Miller qui est le réalisateur de Deadpool et qui part donc faire Terminator. À mon avis, il y a très peu de chances que ça se fasse tout de suite.
Si ça se fait. En tout cas pas avec lui.
En tout cas pas avec.
Bah en fait c'est initié par Blur Studio qui appartient à Tim Miller
donc
je pense que c'est lié à ça. Si le type il en qui il est succès, si c'est vraiment son bébé à lui, il le fera quoi. Mais je pense que pour l'instant on y est. Et puis après il y a un autre problème. Je pense qu'on l'a tous vu. Le marché du film d'animation, vous avez fait un dossier là-dessus quoi. C'est encore très ciblé pour les gosses et tout ça. Et en fait la logique de dire que tu peux adapter quelque chose d'un peu plus mature et y mettre quand même une certaine somme, parce que là en l'occurrence c'est censé être $50 millions, Bah, c'est. Je pense que ça reste difficile.
Ça allait marcher, le sausage party, là.
Oui, mais enfin, ça reste.
Je sais pas, ça avait marché.
Oui, ça avait marché, mais ça reste déjà.
Auquel nous avions aussi consacré une émission de
ciné. Parce que Périne vient d'arriver, donc il faut voir toutes les émissions
à chaque fois.
Oui, ils m'ont pas envoyé les documents, je me suis
dit. Elle est extrêmement choquée.
Mais ça avait marché, mais le truc, en fait, avec sausage party, déjà, c'est que c'est une prod au rabais, hein. C'est pas un truc à 50 millions de dollars, quoi. Et l'autre truc aussi, c'est que ça reste, mine de rien, c'est vendu sur justement l'aspect anti. Genre, on vous fait un film d'animation comme un film pour les gosses, mais en fait, ils s'enculent. Donc voilà. Donc
ce qui est un bon concept.
Oui. C'est pas un très bon film.
Ça me va.
Si on aime voir un pain pitant enculé un falafel à la fin, ce qui est le cas.
Ce qui est vraiment le cas.
Sauce blanche et tout.
Très belle, oui. Très belle scène.
C'était nécessaire.
On va s'arrêter là. Beaucoup de questions sur Ready Player One. On nous demande si on a pu avoir accès aux avant-premières. Si oui, est-ce que c'est aussi bien que tout le monde.
Alors non, parce qu'on n'est pas des blogueurs, voilà, et on n'est pas des. Apparemment, on n'écrit pas dans la presse jeux vidéo, donc on le verra.
On n'est pas assez beau.
Voilà,
on n'est pas assez beau.
Ils sont très mal renseignés en réalité. Ouais. S'ils savaient ce qu'on fait, peut-être qu'ils nous auraient invités. C'est
voilà,
cool.
C'est ça. Mais donc on est très déçus, mais non, là,
je pleure tous les jours. Hein.
Et voilà, et Perrine est en deuil. Voilà, donc faut pas lui en parler.
Non.
On nous demande ce que devient Joe Carnahan depuis qu'on lui a piqué le remake de Death Switch. Alors, et que Bad Boys 3 ne se fait pas. Ça, c'est une question pour Stéphane Moïse.
Alors, il a écrit Uncharted.
Ok.
Donc, c'est lui qui a écrit Uncharted qu'il ne va pas réaliser. Il a écrit Bad Boys 3 qu'il ne va pas réaliser.
Oui.
Qu'est-ce qu'il va réaliser? Je sais pas. C'est un type qui écrit beaucoup. Je crois qu'il a une série télé aussi. Si je dis pas de bêtises, Blacklist. J'ai pas regardé, mais ça existe.
C'est lui,
hein.
Ça.
Il y a un truc qui s'appelle Blacklist.
Oui, oui,
c'est pas avec. Comment il s'appelle le mec de.
Bah, c'est le mec de Sexe, Mensonge et Vidéo.
Ouais, c'est ça. Bah, c'est
James Spader.
Ouais.
C'est pas lui qui fait ça, c'est Carmen qui fait ça.
C'est Carmen qui produit, ouais.
Ah. Ouais, t'es connu.
Si, si. Ah. Et il a produit. Il a aussi produit quelques films comme ça avec son copain. Comment il s'appelle, Frank Grillo, c'est ça.
Il va produire et réaliser le remake de The Red avec.
Oui, c'est ça, il y avait ça. Et alors, Frank Grillo, il a produit un film qui est sur Netflix aussi qui s'appelle Wheelman, je crois.
Okay.
Qui est une petite série B que j'ai pas regardé, mais
que tu te gardes pour un dimanche.
Pour un dimanche de pluie.
Tu seras bien ce week-end.
Voilà. C'est prêt,
point météo
pour ce week-end. Voilà, pour un petit point météo avec Perrine Ganson. Merci beaucoup Perrine. On nous demande notre avis aussi sur Les Montagnes Hallucinées. Évidemment, est-ce que l'Oscar de Del Toro va relancer le projet? On ne sait pas.
Le truc c'est que on aimerait tous, hein.
Je sais pas.
Quand Del Toro, si vous avez remarqué, il a une bague en fait sur la main, qui est une bague qui est liée à, comment dire, justement aux Montagnes Hallucinées, et en fait qu'il la garde à la main en fait dans l'espoir de réaliser le film, et il l'enlèvera le jour où le film sera fait. Et si vous regardez les Oscars, cette bague elle est sur sa main quand il tient l'Oscar, quoi. Donc voilà. Le truc avec Del Toro, c'est que c'est un mec qui lâche jamais l'affaire.
Oui.
Après la question c'est y aura toujours une forme selon laquelle le film se fera. C'est-à-dire que en 2011, quand il était question qu'il le fasse avec James Cameron, avec Tom Cruise. James Cameron à la prod, Tom Cruise devant la caméra, les effets spéciaux, enfin tout était là en fait pour faire le film, quoi. Et bah ça s'est pas fait. Donc contextuellement parlant, tout est possible, et il y a des grandes chances à mon avis qu'il y pense en fait après le power play de que lui apporte l'Oscar. Maintenant, est-ce que ça va vraiment être ça? Pour l'instant, il prend une année sabbatique, donc on saura quand il annoncera son prochain film, quoi.
On nous demande aussi notre avis sur Ghostland, le Pascal Logier. Alors, on a enregistré tout à l'heure, pour ne rien vous cacher, une petite émission avec Perrine, justement. Mais tu peux peut-être, en quelques secondes, donner ton avis. Toi, tu as été plutôt emballé par le film,
contre toute attente. J'ai plutôt été agréablement surprise par le film. Je trouve que c'est un retour de Logier qui fait une sorte d'amende honorable après Martyr et The Secret, qui est quand même gentiment passé inaperçu. Mais je trouve que non, c'est un film plutôt qui se tient bien. C'est un film qui rend vraiment hommage au réalisateur qui l'apprécie. En tout cas, on a du Massacre à la tronçonneuse, on a du Rob Zombie, on a du on a de L'Entre de la Folie, enfin vraiment on a du Carpenter, mais aussi du Lovecraft, aussi du Stephen King dedans.
C'est beaucoup, mais c'est tenu.
C'est des trucs pas mal.
C'est hyper tenu. Enfin, c'est un film qui est très tenu. On sent que c'est un film qui a été vraiment, je pense, beaucoup réécrit, et donc il n'a pas de superflu. Je trouve que c'est des assez beaux rôles féminins, et un film qui est intéressant sur la notion de trauma et d'échappatoire mental, que j'aime bien.
Pas mal, bien résumé. Une question pour Yannick, le livre sur les frères Cohen, est-ce que ça avance? Nous demande Yannick.
J'arrive pas à trouver le temps.
Ok.
Voilà, j'ai pas le temps, c'est tout. J'ai pas le temps et puis j'ai la flemme. j'ai écrit déjà une thèse sur les frères Cohen. Je sais pas si à mon âge je vais repartir sur un bouquin.
Allez.
C'est une question de temps. Je fais plein de trucs différents. Donc j'ai enfin, voilà, il faut s'enfermer. Faut s'enfermer 4 mois hein, pour pondre un bouquin. Je sais pas si j'aurai le temps de m'enfermer 4 mois.
Faut peut-être updater la thèse.
Ouais, non. Non, il y a trop de films pour updater la thèse derrière, si tu veux.
C'était en 1981.
Ah bah c'était en 91, donc si tu veux, ils en ont fait des films depuis.
C'était pas si loin.
Ah, ils en ont fait.
C'était pas si loin. On va prendre une dernière question. Tiens, bah oui, parce qu'on nous la pose plusieurs fois, et on nous l'avait déjà posé dans un précédent podcast, je l'avais pas donné. On demande si on a des news de MacTee, McTiernan.
Toi, tu dois en avoir, non? Toi, tu via Arnaud, hein, tu dois en avoir.
Ton ami, ton frère. ton frère du Nord-Mer.
Comment dire
J'ai l'impression que je l'avais posé en fait celle-là.
Je crois. Bah on a des news de MacTee. Il a tourné une pub pour Ubisoft.
Pour Ghost Recon Wildlands.
Pour Ghost Recon, ouais. Voilà, c'est un des trucs. Si vous l'avez pas vu, c'est un des trucs, des trucs qui existe. C'est notamment, en plus, c'est une petite pub qui était plutôt sympa parce qu'il y a, il y a une scène de sniper qui fonctionne bien. Il y a un gag et tout avec un petit chat. C'est plutôt cool, quoi. On a des news de MacTee, on peut pas en parler.
Ok.
Voilà, en fait, en gros, voilà, tant qu'il y aura pas d'annonce, ça sera très très difficile de voilà.
Mais il est en train de préparer quelque chose.
Mais il va bien au moins.
Ah oui, tout ça.
Ah
va,
voilà, ouais, c'était tout ce que je voulais savoir.
Tu pourras me le dire à moi après en secret.
Mais tu le sais déjà, je pense.
Ah bon? Ah bon?
Bah moi, je sais pas, donc je reviens.
Non. Non, je suis vraiment. Non, mais c'est une question piège parce que le problème, en fait, c'est que.
Tu es lié contractuellement, j'ai
Non, je suis
compris,
pas lié contractuellement, c'est juste en fait que je suis même pas. Non, pas du tout.
Mais si, dis-le.
Mais non. En gros, il y a des projets. Le problème, après, c'est qu'on va pas commencer à vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais. Et on voit que c'est quand même... Ce qu'on sait, c'est que c'est très, très difficile pour un mec comme MacTee de faire du cinéma aux États-Unis. C'est quand même le véritable bouc émissaire de l'affaire Pelicano. C'est un mec qui est complètement tricard, là-bas, quoi. Je pense que c'est pire que Kevin Spacey, tu vois. Donc c'est vraiment, enfin, ce genre de truc, quoi. Donc c'est vraiment.
C'est pas pour les mêmes.
Non, mais moi, je suis sûr que même Weinstein, il va revenir, enfin, il peut revenir plus facilement, ou ces mecs-là. Enfin, tu vois, c'est un truc où, parce que c'est contractuel, juridique. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui sont beaucoup plus complexes que Twitter qui tape sur la gueule des mecs, tu vois. Donc le problème, si tu veux, c'est que indépendamment des choses pour lesquelles ils ont été accusés, j'entends bien sûr. Hein. Non, mais.
Oui,
je précise, mais le problème, c'est qu'il
faut être prudent aujourd'hui, tu comprends.
Je précise ça parce qu'il n'y a pas encore de véritables actions juridiques qui ont vraiment été mises en place, quoi. En fait, en tout cas, à la mesure du scandale que ça a apporté. Alors que chez McTiernan, il y a ça, c'est ça le problème. Et là, d'un seul coup, ça devient beaucoup plus sérieux, quoi. Ouais. Et on est dans le.
Et en termes d'assurance, choses comme ça, de choses très, très concrètes dans la fabrication des films, ça pose un vrai problème.
Voilà. Et lui, il a touché personne. Donc le truc, c'est que voilà. Donc le problème, en fait, c'est que on arrive à un stade où on sait qu'il ne fera pas le film aux États-Unis pour l'instant. Si jamais il revient par d'autres biais, ça peut revenir, quoi. Mais il travaille, il écrit, il bosse, il a des idées, il a des projets, il y a des trucs qui avancent plus ou moins, certains plus que d'autres. Maintenant, quand il y aura une annance, on
en reparlera. Ouais, on va s'arrêter parce qu'il est déjà 4h du matin.
Voilà. Et puis il faut que j'aille bosser, moi.
Il doit écrire son émission. Il a encore des émissions à préparer. On va se quitter là-dessus. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce Nos Ciné Club. Merci à Quentin, à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil, à Gabriel pour les questions, Binge.audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.
Ta gueule! Viens ici, sale enculé!
Salaud!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.